cette semaine dans le service après-vente de la F1.
Le Grand Prix de France fait encore parler de lui.
Gigi nous parle de
Ferrari, Red Bull, McLaren et Lotus signent enfin les accords Concorde.
Fab se croit chez Tokyo Pool.
Le F-Duck fait encore polémique.
Gus Gus fait le plan de Tourine.
Christian Horner fait la leçon.
Et Yakeke Yakeke.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du SAV de la F1, le MAG. On va revenir sur toute l'actualité de la F1 pour m'accompagner comme d'habitude. Bonsoir Dino.
Buonasera.
Ah, t'es encore dans ton truc
Oui, je me suis dit que j'allais faire sobre. J'allais juste me contenter de dire bonheur. Mais si tu veux, je suis juste pour commencer.
Non.
Ça me dérange pas. D'ailleurs, je crois que le succès de l'émission, la dernière émission, est principalement dû à ça. Donc je pense que maintenant,
ou pas,
ça débute chaque émission.
Ou pas.
Je vais nous chanter l'hymne italien.
Ou pas. Ce soir avec nous, Dino, nous avons deux de nos chroniqueurs. Nous avons Gus Gus.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Et il est revenu.
Oui, on l'a libéré.
Ouais, il était emprisonné dans sa grotte. Bonsoir, Fab.
God save all gracious queen. Long live our noble queen. God save our queen.
Bonsoir à tous. Parce qu'on ne peut pas chanter impunément l'hymne italien.
C'est vrai.
Non, c'est vrai.
D'ailleurs, j'ai les oreilles qui saignent. Oh, man.
Messieurs, vous avez passé une bonne semaine. C'est pas être Grand Prix, je peux pas vous demander si c'est vraiment Grand Prix.
Bah écoute, tu peux nous demander si on a vécu les Grands Prix.
Il y a eu le 1er avril quand même, Shinji.
C'est vrai, un beau 1er avril sur Fun et Force.
Ouais.
On fait les ouais. Ah bah là, ouais. Donc les gens, les règles générales, ils se limitent à 1.
Nous, c'était une vraie actu dans le tas.
Oui. Non, c'est vrai aussi que dimanche, de toute façon, l'actu était calme, donc il pouvait pas. Il n'y avait pas grand chose d'autre. Donc finalement, c'est bien, ça a occupé le terrain. Mais si on va passer au quiz, à la première partie du quiz de la semaine.
Ouais.
Rappelons-le. Les scores sont à 5-5.
Ouais, mais la dernière fois, on leur a mis une branlée, quoi.
Oui.
Ah, je dis ça, alors, rien.
Mais on va dire rien.
Ouais. Qui veut commencer
On vous laisse l'honneur, on vous laisse l'honneur.
Oui. Bon, d'accord, on va commencer tout de suite par prendre l'avantage, Shinji.
S'ils veulent.
Oui, bah. Ils insistent pour perdre. Laissons-les perdre. D'accord.
Alors. Vous savez que la thématique souffrance va continuer hein, toute la saison.
Oui, parce que nous, on est comme ça. Nous, on est.
Vous parlez beaucoup pour des gens qui n'ont pas posé leurs questions.
C'est vrai. C'est ça permet d'avoir le temps de chercher mon chronomètre, en fait.
Wow.
Alors, messieurs, rappelons la règle. Shinji, rappelons la règle, s'il vous plaît.
Donc, nous vous posons une question hein, dont on attend une réponse. Oui. Et vous avez 5 minutes, pas une seconde de plus, pour trouver cette réponse.
Très bien.
Pour vous aider, vous pouvez nous poser des questions où on vous répondra par oui ou par non. Et si vous trouvez la bonne réponse, vous empochez 2 points. Et si vous ne trouvez pas, donc vous comme vous n'allez pas trouver, nous allons récupérer 1 point.
Voilà. Donc d'ici 5 minutes, nous mènerons 6 à 5.
6 à 5.
On est trop présomptueux, Shinji. Faudrait qu'on baisse un peu le rythme.
Calmez-vous. On n'aime pas les gens présomptueux ici.
Alors, messieurs, attention, la question, et vous avez 5 minutes, est la suivante. Pourquoi a-t-on reparlé de Serge Kampf?
Il était impliqué en Formule 1?
Non.
Je crois pas, à ma connaissance, non.
Non.
Il y a un rapport quand même avec la F1.
Bah, bien sûr, c'est pas un truc inutile.
Bien sûr. Est-ce qu'il travaillait pour une entreprise qui travaille en F1?
Je suis pas sûr qu'il travaille en Formule 1, non.
Non.
Non, je pense pas.
Je pense pas, non.
Il a œuvré pour le retour d'un Grand Prix?
Non.
Est-ce qu'il a fait quelque chose pour la F1 quand même?
Ah, directement oui.
Oh, pas... Enfin...
Bah, quand même, Fuji.
Oh non, mettez-vous d'accord, merde.
Bon, il a rien fait pour la F1 directement, mais quand même.
Mais ses actions ont des conséquences positives sur la F1.
Non, ça n'a pas de conséquences sur la F1, non.
Est-ce que c'est une date anniversaire de quelque chose qu'il aurait créé?
Non.
Est-ce que c'est un rapport avec un autre sport mécanique?
Ça pourrait.
Ouais, ça pourrait.
Donc non.
Est-ce qu'il est associé à une... Est-ce qu'il est français déjà?
Non.
Allemand?
Non.
Merde.
Autrichien?
Non.
Alsacien?
Non.
Serge Kampf. Américain?
Non.
C'est le fils du livre d'Hitler?
Non. Enfin, il n'est pas né français. Il est français, mais il n'est pas né français.
Bon, il parle français, en tout cas.
On va en reparler ou on en a déjà reparlé?
On en a déjà reparlé.
À l'occasion d'un Grand Prix?
Non.
Non.
Même pour tout vous dire, c'est la 7e fois qu'on en reparle.
C'est une récompense qui porte ce nom?
Oui.
Le hasard fait bien les choses. Je sais pas. Ça pourrait être... Le trophée Camp.
C'est un lien avec une écurie de Formule 1?
Non.
C'est un trophée FIA?
Non.
Non.
C'est la 7e fois, donc ça fait 7 ans que c'est... qu'il existe ce trophée? C'est
très cool. Non, ça existe depuis 1955.
Et c'est décerné sur... régulièrement ou ça, ça
peut l'être? Tous les ans.
Tous les ans.
Et donc c'est le trophée Serge Kampf?
Oui, c'est l'un c'est des décerné... noms du trophée. C'est pas forcément le nom avec lequel on le connaît le plus, mais c'est le nom du trophée.
C'est le meilleur rookie?
Non.
Non.
C'est pas un trophée de F1 officiel en tout cas?
Non.
C'est un trophée qui récompense une innovation?
Non.
Et donc il a été décerné tous les ans sans faute depuis 55?
Tout à fait.
Alors pourquoi on en a parlé que cette fois? Je comprends pas le truc.
C'est un des noms du trophée, donc il y a eu d'autres
alors,
noms.
Alors, il reste une minute. Alors, il y a eu effectivement d'autres noms. Il s'appelle Serge Kampf depuis le milieu des années 2000, je crois. Mais voilà, c'est un trophée qui a été en Formule 1. On n'en a parlé que cette fois. Même s'il est décerné depuis 55, en Formule 1, on n'en a parlé que
cette fois. Ah, d'accord.
Okay. Ah, c'est un trophée sur les mauvais gestes?
Non, il reste 30 secondes.
Quand tu dis 7 fois, c'est 7 le nombre ou 7 fois CE2TE?
Non, c'est 7 le nombre. Qui vient après 6 et avant 8.
Mmh. Ah.
Et la moitié de 14.
Ça a été décerné à des pilotes d'autres championnats, donc.
Non, celui-là n'a jamais été décerné à d'autres. Alors, à savoir que les 5 minutes sont passées, messieurs. Alors, essayez au moins de trouver à qui il a été décerné. Pour tout vous dire, il a même été décerné aujourd'hui, mardi.
Ah, oh, mais vous êtes vache aussi.
À Paris, en France.
Ah, il a été remis, c'est-à-dire que...
Oui, il a été décerné début janvier, mais il a été remis aujourd'hui.
Bon, d'accord, à ce moment-là, ok. C'est une récompense ou c'est... Enfin, c'est positif de l'avoir ou c'est négatif?
Oui, oh, c'est positif. Une récompense positive, oui.
Positif.
Quand vous allez voir un peu le palmarès du prix, oui, positif.
Rien que pour la F1, c'est beau.
Oui. Dans le sport en général, c'est beau.
C'est beau aussi.
Le ballon d'or.
Non.
Bien sûr.
Qui aurait eu le ballon d'or en Formule 1? Explique-nous.
Un Schumacher?
Peut-être.
Oui,
fait du foot tous les ans. Je l'ai vu en vrai faire du foot, moi.
Waouh.
Il a cassé une dent à Batistan.
Après le point Goodwin, le point Séville.
Oui, t'avais, ça, je suis assez d'accord pour qu'on instaure ce point, quand même.
Le point Materazzi Zidane.
Ah. Alors messieurs, c'est un indice, c'est une récompense qui a récompensé un pilote.
Pour l'année écoulée. Donc pour
un pilote, c'est... Bah, je sais pas, c'est Bastien.
Bah, il y a le prix Citron, l'inverse du prix Citron, non?
Mais non. C'est une récompense qui récompense un pilote pour les événements qu'il a fait l'année d'avant, donc en 2011. Quel pilote aurait pu être récompensé pour son œuvre en 2011?
En Formule 1.
En Formule 1. Cherchons. J'ai dit, attention, laissons-les réfléchir.
Il y a des Kayan. Ouais,
oui.
Quand même.
Yuzi, Karti Kayan.
On n'est pas loin. D'ailleurs, en parlant de Karti Kayan, on n'est vraiment pas loin.
Pas loin. C'est...
Oui, c'est vrai. C'est très proche, même. Une feuille de papier.
Un concours.
Puisqu'il s'agit d'un trophée décerné à...
Sébastien Vettel.
Sébastien Vettel. Hein. C'est en fait le trophée, le Grand Prix Serge Kampf. C'est en fait le Grand Prix de l'Académie des Sports française. Alors, il faut savoir que Serge Kampf est un homme d'affaires suisse, enfin d'origine suisse apparemment, qui est créateur et président de la société Capgemini, et qui est très impliqué notamment dans le rugby, et il est l'un des membres du bureau exécutif de l'Académie des Sports, qui décerne donc tous les ans depuis 1955 différents prix, parmi lesquels le Grand Prix Serge Kampf, qui récompense donc le plus bel exploit sportif dans le monde durant l'année écoulée. Alors cette saison, ils ont décidé de le décerner à Sébastien Vettel, qui a réalisé quand même une saison historique, record de précocité, record de pole position, 11 victoires, voilà, ils ont estimé que c'était une grande performance. C'est le 7e pilote de Formule 1 à le recevoir, puisqu'auparavant on avait eu Fangio qui l'avait reçu en 57, Jim Clark en 65, Stewart en 73, Niki Lauda en 77, Alain Prost en 89 et Michael Schumacher en 2001. Alors quand on vous disait que, là on voit effectivement que les pilotes qui sont associés à ce trophée, enfin à cette récompense, sont quand même des pilotes prestigieux, Mais quand on regarde un peu tout le palmarès, on comprend aussi que Vettel, il côtoie quand même des grands athlètes, du lourd, puisqu'on compte parmi les lauréats, alors la liste est assez longue, hein, Éric Tabarly, qui a été récompensé après sa victoire dans la Transat anglaise en 64, Jean-Claude Killy après ses victoires en Coupe du Monde et au Championnat du Monde 67 en ski, Eddy Merckx après ses victoires dans le Paris-Nice, le Paris-Roubaix, le Giro, le Tour de France et un total de 52 victoires en 1970. Donc en
70. Oh, lui, il le méritait.
Voilà.
Oh oui, qu'est-ce que c'est 11 victoires par rapport à 52?
Il y a aussi en 1970, Pelé, qui a été récompensé 70, après sa troisième Coupe du Monde. On a aussi Marc Spitz qui a été récompensé après les JO de Munich de 72, où il avait acquis 7 médailles sur 8 possibles, je crois, en natation.
Longtemps record de médailles.
Jusqu'à ce que Phelps le batte lors des dernières Olympiades, je crois d'ailleurs.
Oui, exactement. Mm-hmm. Oui.
Il avait une très belle moustache, Marc Spitz.
Oui. Oui. On a aussi Nadia Comaneci, hein, qui l'a eu après son triomphe aux Jeux de Montréal 1976. On rappelle qu'au JO de Montréal 1976, elle a tellement été forte que tout le monde lui a mis la note maximale, sauf que les tableaux n'étaient pas prévus pour
afficher
la note maximale.
Donc, elle a eu zéro, donc.
Donc, il y a eu que des zéros.
On a aussi Sergei Bubka qui l'a eu en 1985 pour avoir passé la première fois la barre des 6 mètres. À noter que Vitaly Petrov a un lien avec Sergei Bubka a un lien avec la F1 puisqu'il a été entraîné par Vitaly Petrov. Mais l'entraîneur, Steffi Graf aussi l'a reçu en 88 après avoir réalisé le Grand Chelem. Indy Rain l'a reçu en 95 après avoir remporté son 5e Tour de France consécutif. Marie-Jo Pérec l'a remporté après son doublé olympique en 1996. David Douillet après son 2e titre olympique en 2000. Et plus récemment, Roger Federer, Hélène Gebrselassie, Raphaël Nadal, Usain Bolt et Franck Camas, vainqueur de la Route du Rhum et détenteur du trophée Jules Verne en 2010. Donc quand même, c'est Sébastien Vettel et voilà, est dans du beau monde quand même.
Voilà,
c'est vrai.
À noter au palmarès 2011, parce qu'il distribue plusieurs récompenses. Voilà, donc on va faire un petit peu le tour des récompenses. Oscar Pistorius, l'athlète amputé des deux jambes, je crois.
Oui.
Il roule avec des spatules en carbone.
Enfin, non, il roule pas.
Il roule.
Il saute sur des ressorts.
C'est pas homologué la roulade.
Donc, il a remporté le prix Henri Deutsch de la Meurthe, récompensant l'auteur d'un fait sportif pouvant entraîner un progrès scientifique ou moral.
Parce qu'il s'est qualifié, il est le premier athlète handisport à s'être qualifié au championnat du monde valide.
Et c'est une grosse polémique en plus parce qu'il y a
des... Ça a été une grosse polémique, oui.
À cause de la rigidité de ses spatules en carbone qui lui donnerait peut-être un avantage.
Voilà,
ouais, c'est le seul au monde qui va plus vite le deuxième 100 mètres que le premier.
C'est vrai en plus.
C'est vrai.
Où est la limite entre l'aide au handicap et l'amélioration? C'est vrai, c'est sujet à débat. Vas-y, Dino.
C'est profond, je dis.
Mais oui, non, mais c'est tout.
Vous avez deux heures.
Donc ensuite, on a Elisabeth Gurgel qui a remporté le prix Monique Berliou, récompensant la sportive à la performance la plus remarquable en 2011. Elle a remporté, je crois, la Coupe du Monde de ski en descente et en super-G, je crois.
Super-G.
On a la ville de Montpellier. C'est une première fois qu'une ville est récompensée, mais on a la ville de Montpellier donc qui a remporté le prix Marie-Christine Hubald-Boquet, récompensant l'athlète ou le groupement sportif dont la carrière ou l'œuvre d'éducation physique constitue un exemple. Faut rappeler que Montpellier est une des pointures européennes en hand, est aujourd'hui en tête du championnat de France de Ligue 1. Il y a le volley aussi,
rugby.
Il y a
le club de rugby qui est en top 14.
Donc voilà, c'est une grande ville de sport, une grande fierté française. On a Jérémy Stravius qui a remporté le prix de la ville de Paris, récompensant le sportif français auteur d'une performance ou d'un acte sportif révélateur de qualité humaine exceptionnelle. En bref, le mec, il a remporté des médailles, mais on dit que c'est des qualités humaines exceptionnelles. Je sais pas, hein. C'est-à-dire que derrière, on vous dit pas, oui, parce que vous voyez, le mec, il a abandonné, mais il a reconnu la victoire ou un truc dans le genre. Non, non, le mec, il a gagné des médailles, donc ça montre ses valeurs humaines. Ah, d'accord.
Il doit faire
le Schumacher aussi, il a des valeurs humaines dans ce cas, quoi. ensuite, on a Alexis Pinturo qui a remporté le prix François Laffont. Récompensant le jeune sportif français aux performances, annonçant une carrière sportive particulièrement prometteuse et digne d'encouragement. On a l'équipe féminine de football qui a remporté le prix Emmanuel Rodokanaki, récompensant...
Oui, les noms de prix sont pourris, vous en êtes déjà rendu compte.
Oui.
Mais oui, vous inquiétez pas, on s'en est rendu compte aussi.
Alors, donc, récompensant la meilleure performance réalisée par une équipe française. On a Anthony Smith. Alors là, ça, on commence à arriver dans des prix qui sont un peu plus, voilà. Vous allez voir. On a Anthony Smith qui a remporté le prix André de Saint-Sauveur, récompensant l'auteur d'un exploit sportif exceptionnel de caractère original. Alors, Anthony Smith, c'est un monsieur qui a 84 ans. Et qui a fait la traversée de l'Atlantique en équipage pour le compte d'un organisme de charité afin de lutter en faveur de l'accession pour tous à l'eau potable.
Et sans les dents.
Hein ?
Et sans les dents.
Et, et on a Brigitte Latreille qui a remporté le prix Alain Danet, récompensant l'athlète.
Non, vous avez... Vas-y.
Récompensant l'athlète ayant atteint dans sa carrière un haut niveau, puis ayant obtenu une réussite professionnelle remarquable. Alors, Brigitte Latreille. Elle a été championne olympique d'escrime. Et depuis, elle est devenue cultivatrice de sangsues à usage médical. Ça lui prend un prix.
Oh putain.
Sans que ni tête.
Et on peut noter quand même que nous, fans de sport mécanique, nous avons un prix, qui est le prix Roland Peugeot, qui a été décerné cette année à Grégory Bauger, qui a remporté deux médailles au monde du monde. Donc c'est un prix qui récompense...
Donc il considère quand même le cycliste sur piste comme un sport mécanique.
Oui, ça récompense le plus bel exploit accompli par ou des sportifs français dans les sports mécaniques, et c'est là où c'est important. C'est un exploit réalisé par un ou des sportifs français dans les sports mécaniques. Il faut se rappeler que depuis 10 ans, c'est deux notions qui ne vont pas ensemble. La preuve, puisque depuis 2006... Le dernier membre de la compétition automobile qui a été récompensé, c'était Daniel Elena, qui n'est pas français mais monégasque. Hein, donc déjà, oui. Voilà, déjà on a commencé à creuser très loin pour trouver un mec de
pareil.
Il l'a pas eu Fabien Cancellara ?
Non.
Oh, ça c'est bon.
Ah non, j'ai rien dit parce qu'après il y a eu Stéphane Peter Hansen en 2007 qu'il a eu pour le Rallye Raid. Mais ensuite on a le BMX avec Anne-Caroline Chausson. En 2008, puis quand même, ils se sont dit, bon, on peut pas seulement donner à du BMX, faut qu'on trouve un truc. Donc ils l'ont donné à Mike Di Meglio en motocyclisme, en 2008 aussi.
Ça va, oui.
En 2009, c'est Marvin Musquin en motocyclisme, et là depuis deux ans, c'est des cyclistes, avec Thomas Veuclair en 2010, et Grégory Bauger en 2011.
Thomas Veuclair en 2010 et Bauger en 2011. Il n'y a aucune logique.
L'inverse aurait été plus logique.
Oui, en plus, oui.
Enfin, Bauger, à la limite, on pouvait lui retirer aussi.
Donc voilà, c'était tout. Nous marquons un point. Ça fait 6
ouais,
à 5. On prend la tête.
Yes. Bon, messieurs, reprenons notre calme. Nous allons passer au podium de l'actu.
Le service après-vente de la F1 vous invite à découvrir le podium de l'actu. Le seul podium au monde à géométrie variable.
Alors messieurs, cette semaine... Le podium aura 4 places.
Encore ? Moi j'en veux plus.
C'est vrai que ça fait pas beaucoup.
Oh écoute, t'as
bien... l'explication.
Ouais, ouais.
Restrictions budgétaires.
Alors, en première actu, une actu que j'ai citée, que Fab a citée, mais aussi Ben, la polémique sur le... Alors le F-Duct, le W-Duct, le tout ce que vous voulez duct en fait... Ouais. Hein, machin duct.
Le Daffy duct.
Oh, oh. Merde, ma vanne.
Ce système vérifié deux fois par la FIA, confirmé deux fois par la FIA, et les équipes ne sont pas contentes. Là, on a encore eu une nouvelle. Red Bull dit oui, la moitié des équipes sont contre. Ah bah ouais, mais la FIA elle dit oui. En même temps, quand il dit la moitié des équipes, c'est Red Bull, Toro Rosso, Ferrari, Sauber.
Et Lotus.
Ah, ça fait la moitié, j'ai dû dire.
Bon, ouais, c'est une belle moitié.
On va préférer que ce soit Red Bull avec HRT et Marussia, peut-être.
Voilà. Une opinion, Moi, j'en avais déjà parlé dans la dernière émission.
C'est pas tant le côté polémique sur le W-Duct en lui-même, parce que bon, après tout, les équipes ont le droit de réclamer une clarification, de la réclamer 500 fois tant que c'est possible. Ça, elles sont dans leur droit, à la limite. Enfin. Mais c'est plutôt le côté Horner, le côté c'est vraiment dégueulasse, Mercedes il respecte pas les accords, alors que c'est quand même les premiers à se désolidariser de la FOTA, des autres équipes en négociant les accords Concorde de manière individuelle, enfin bon, c'est un peu gros quoi. Mm.
Non, puis dire que ça respecte pas l'esprit. Ouais, bah en même temps, les diffuseurs soufflés non plus, hein, ça respecte pas l'esprit. Voilà. Sinon, tiens, en restant chez Red Bull, une autre actu qui a été citée par Fab et Gus, c'est tout ce qui concerne en fait l'accident Vettel Kartikeyan. Donc, on a vu ce qui s'est passé en course, on a vu ce qui s'est passé juste après, où il a traité de Kartikeyan de concombre, Kartikeyan qui a même été sanctionné officiellement par la FIA.
Il a traité de Kartikeyan de concombre.
Ouais.
Non, parce que moi je suis parti juste après le Grand Prix, donc du coup j'ai pas forcément trop suivi l'histoire. Il a traité Kartikeyan de concombre.
Concombre ou cornichon, ça varie.
Oui, voilà. Non, mais, c'est des questions de traduction.
Comment, mais Sébastien, comment tu peux sortir une insulte aussi pourrie? Concombre. On ne traite pas de caca de concombre, Sébastien. Cucurbitacé, c'est mieux déjà. Voilà, déjà, ça fait intellectuel, quoi. Le temps que le mec comprenne et tout, et qu'il te trouve con, ça a l'air intelligent. Mais là, non, t'as juste l'air con.
Sachant qu'en plus, en fin de course, il a pas écouté son équipe et tout, donc tout le monde se dit, les choses ne vont pas bien chez Vettel, qui n'a pas été sanctionné par la FIA finalement, parce qu'attention, hein, pour son concombre, il risquait des sanctions de la FIA.
C'est bizarre. Attends, quand tu dis ça.
Je sais, elle était préparée cette phrase.
Il y a un gros travail d'auteur. Là. Il y a des semaines de préparation. Ça, lui-même, il a demandé à Vettel, écoute, tu montes ton concombre pour qu'histoire que je puisse faire une note derrière.
Même dans ce sens-là, il risquerait, hein, puisque vous savez qu'il y a un code de bonne conduite. C'est suite à ça. Donc, s'il montrait son concombre, il risquerait aussi de sanctionner.
T'imagines? Là, Gigi, montrer son concombre au volant, faut vraiment que la Red Bull soit bonne pour que tu y arrives, hein, parce que quand même.
Bah attends, sur trois roues, le mec, il tenait le volant à une main, hein.
Oui.
Donc, non, vous voulez, ajouter quelque chose,
À la limite, bon, l'incident, il s'est passé comme il s'est passé, je pense que, on est tous d'accord pour dire que Vettel aurait pu s'écarter plus, Kartikeyan peut-être se rabattre un peu plus, bon, même si, je crois que c'est Dino qui l'a dit dans le dernier SAV, je pense que Vettel aurait quand même pu ne pas fermer la porte à ce point.
Ouais. Après, mais c'est tout le monde dit que c'est plus ou moins de la faute de Vettel. Hein, que voilà, Kartikeyan, il a pas de cul.
Il y avait une déclaration de Brandl qui était intéressante où il disait la faute elle est sur Vettel, mais après, c'est vrai qu'on peut aussi comprendre, surtout Kartikeyan qui prend jamais vraiment une décision. Enfin, qu'à un moment donné, les mecs, quand ils lui prennent deux tours ou trois tours, à un moment donné, ils en ont ras-le-bol et qu'ils veulent vite, ils veulent le pousser hors de la route, quoi, et lui faire comprendre, bon, bah, tu me laisses passer ou tu me laisses pas passer, quoi. Mais voilà, sur le coup, moi, ce qui m'a vraiment embêté, c'est que derrière, surtout, il en rajoute une couche. Voilà, bon, bah,
ouais, non, mais voilà, c'est ça, quoi. C'est surtout, enfin, là où tu vois d'autres pilotes, comme, je sais pas, je prends, allez, un exemple très récent, c'est Alonso au Grand Prix d'Australie, bon, qui s'énerve un peu contre un commissaire, et puis derrière, bon, qui calme le jeu face à la presse. Enfin, là, je veux dire, le mec, il descend de sa voiture dans le même état d'esprit dans lequel il l'a quitté, quoi. Enfin, il continue. En plus, c'est méchant, quoi. C'est vraiment une colère froide. Quand tu vois l'interview, il a pas l'air particulièrement énervé, quoi. Il le traite d'idiot, il le traite de cornichon, de concombre, comme on veut, quoi. Mais c'est, je sais pas, enfin.
Poivron rouge!
Le mec, il fait une pizza, quoi.
Tagliatelle! Il arrive à sa pizzeria, il dit bonjour, je voudrais une Kartikeyan, s'il vous plaît. Vous mettez quoi dessus? Des concombres!
Non, mais voilà, enfin, c'est, je sais pas. C'est bizarre, c'est un drôle d'état d'esprit. Enfin, je sais pas, quand t'es pilote professionnel, t'as ce passage obligé de la presse, t'es quand même censé l'aborder de la manière la plus sereine possible pour justement éviter ce genre de dérapage, comme on peut connaître Hamilton, par exemple, récemment, et bah, c'est dommage de sa part. Après, bon, faut pas tirer de conclusion.
Après,
ça prouve aussi qu'il est pas serein dans
et voilà, c'est tout ça, peut-être que ça monte le plus.
Mais après, ça, que je crois que c'est toi qui l'as dit justement, Fab, sur Fan F1. Moi, autant le doigt d'honneur, je veux pas qu'on sanctionne sur ça, parce que voilà, c'est un geste à chaud. Et au contraire, moi, je suis totalement pour. Voilà, tu parlais de la réaction d'Alonso en Australie, même si elle est pas tolérable. Voilà, tu comprends qu'elle est à chaud et que voilà, oui. tu vas te juger plutôt sur la manière dont il va gérer après, est-ce qu'il s'est excusé, etc. Bon, voilà. Mais là, c'est vrai que c'est sur le coup vraiment de s'entêter derrière. Tu te dis voilà, ça, moi sincèrement, sur le coup, je suis déçu du comportement d'un mec pourtant dont j'adore généralement le comportement, mais là que j'ai trouvé extrêmement décevant, surtout par rapport à Kartikeyan. Enfin voilà, enfoncer la tête dans l'ombre de Kartikeyan, je pense que Kartikeyan il a pas besoin de ça. Même s'il mériterait qu'on, parfois, on lui fasse un petit peu le sort qu'on a fait à Yuji Hide, savoir se demander s'il a vraiment besoin d'être en Formule 1 aujourd'hui.
Ouais, mais enfin, ça c'est difficile à dire, t'as vu le truc qu'il conduit, quoi. Ouais.
Oui, mais bon, on l'a fait pour Yuji Hide, quoi.
Ouais, mais enfin, Yuji Hide, c'était quand même très particulier.
C'est bon.
Yuji Hide, ça ne savait même pas qu'il y avait une 7ème vitesse.
Demande à Christian Albers s'il aime bien Yuji Hide.
Bah, ils se sont envoyés en l'air ensemble. Non, bah alors, ça va.
Il y a une vidéo de Yuji Hide qui conduit pour la première fois la Super Aguri à Bahreïn au début de la saison 2006. Et tu vois, au milieu de la ligne droite, il est déjà à fond, en fait. Le truc, c'est qu'il était en 6ème, il n'avait pas passé la 7. On lui avait pas dit qu'il y avait 7 vitesses, en fait.
Enfin, même, il y a cette fameuse sortie de piste où il demande où est la marche arrière.
Oui.
Oui, bon, il y en a bien qui demandent où sont les drapeaux bleus.
Oh, ta gueule.
Ah oui, c'est vrai.
Alors, passons à une actualité qui a été citée 4 fois, et ça tombe bien parce qu'elle a été citée par nous 4.
On va pouvoir en parler, ouais.
Ouais. Hey, c'est juste... pas... Il y a deux grosses actus, hein, faut bien le dire. Oui.
Par curiosité, que Steph Score, il a cité une actu qui va être traitée cette semaine.
Non,
oui,
bah une.
Si,
oui,
une, si,
si, bien sûr.
Il y en a une.
Ah.
C'est mais déjà ça.
C'est là, il ne l'a pas cité. Non.
Pas forcément. Si on la cite, nous, il va pas la citer.
C'est les accords Concorde.
Ah, ouais.
Bah, tu l'as noté.
Le dossier que personne connaît quand même.
Bah, oui.
Disons-le.
Oui. Surtout toi, Fab.
Ah, j'avoue que c'est pas mon meilleur article.
Fab qui me dit quand même dans la rédaction, il me dit je te laisse hein, les accords Concorde. Et moi, super bon camarade, lui dit « Oh ouais, Fab, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. » Parce qu'en fait, ça m'intéressait pas de le faire.
Moi non plus.
Non, c'est important. Bon, surtout, c'est parce qu'important, c'est la polémique qu'il y a eu autour sur les potentiels traitements de faveur envers Red Bull et Ferrari.
Oui.
Enfin, on dit Red Bull et Ferrari. Apparemment, il y aura un système mis en place qui tiendrait davantage aussi en compte l'aspect historique des équipes et puis vraiment le côté image qui véhicule.
Oui, donc. Et puis alors, il y a des notions de nombre de titres qu'on a eu sans avoir changé de nom depuis. Un truc pour bien faire chier Mercedes, quoi.
Oui.
Apparemment, ouais.
Ouais, ça les fait chier, ouais.
Résultat, ils ont pas signé. Oh, dommage.
Ouais,
voilà.
Oui, voilà. Oui, parce que tout le monde n'a pas signé pour l'instant.
Le problème, c'est de faire pression quand t'as été le seul à pas avoir signé et que derrière toi, t'as Caterham et Marussia, quoi. Allez, venez, les gars. On va faire notre championnat parallèle.
Le DTM.
La Super League Formula.
C'est le... Non, mais ce qui est intéressant avec les accords Concorde dans leurs négociations actuelles, c'est quand même le renversement total par rapport à ce qu'étaient au début les accords Concorde. Parce qu'au départ, les accords Concorde, c'était quand même fait... Enfin, c'était l'union des équipes contre oui. Le pouvoir sportif pour s'arroger les droits commerciaux. Et actuellement, on voit quand même que c'est la désunion des équipes pour s'arroger des avantages avec les droits commerciaux. Enfin, c'est quand même intéressant.
Il y a quand même un truc qui est commun de tout temps, c'est de la foutre bien profond à la FIA.
Oui. Oui, toujours.
Ah, mais quand même.
Mais c'est aussi le truc, c'est que le personnage clé, c'est Bernie. C'est-à-dire qu'avant, c'est Bernie négocie avec les équipes, et maintenant, il négocie face aux équipes avec voilà. Les FIA.
Oui.
Donc du coup, voilà, c'est ça aussi qui fait que ça a changé, quoi. C'est que c'est là où moi je trouve Bernie génial, quoi. C'est qu'il a compris les équipes. À chaque fois, il les prend à leur propre piège. Il leur dit, mais quand vous êtes unis, vous arrivez à pas grand-chose, parce que de toute façon, derrière, vous allez vous casser la figure. Et la preuve, c'est que derrière, il fait tout ce qu'il faut pour qu'il se casse la figure. Et même des fois, il se casse la figure sans qu'il ait rien à faire. Genre le RRA, là, je pense que Bernie, il a eu rien à faire. Juste, il a regardé, il s'est dit, je vais laisser reposer la patte, on va voir. Et à la fin, ça fait une belle brioche.
Ah non, mais il est fort. C'est vrai qu'il faut quand même l'admirer. Ce requin, quoi.
Oui, maintenant qu'il a demandé la nationalité bahreïnie. Non mais alors sincèrement, non mais j'en profite. Si vous nous écoutez et que vous lisez nos articles sur Facebook, mais lisez-les quoi, parce que le pauvre Bernie, voilà, mais le pauvre Bernie à qui on a fait dire, quand même j'ai fait dire des horreurs dans l'article. Genre j'ai bien donné 80 années de ma vie à la Grande-Bretagne, je peux bien donner les 80 prochaines.
ça fait peur.
Ou alors le truc véridique, le mec qui dit, oh bah j'aurai un boulot, j'aurai un appart, j'aurai la couverture sociale. Bon, le mec se fait traiter de pourriture alors que c'est juste un poisson d'avril, quoi. Voilà, c'est comme le coup de Hollande où il y a la machine sur Facebook qui s'est mise à Hollande, il est à la con, etc. Mais il lit l'article, tu verras que c'est pas une idée à lui, quoi. C'est juste un poisson d'avril. Et toi, Chédi, donc tu en penses quoi des accords Concorde?
D'un côté, je suis rassuré dans le sens où il y a quand même des équipes qui ont signé. Non, parce que c'est quand même toujours mieux que quand il n'y a pas d'équipes qui ont signé et qui disent « Ouais, tant qu'on signe pas, il y aura des championnats parallèles et tout ça. » Bon, après, reste le problème, en effet, d'équipes comme Mercedes. Mais c'est vrai qu'elles sont quand même bien fait entubées. Ce qui est bien la preuve que, pour le coup, la FOTA n'a servi à rien.
Tout à fait.
Et carrément, là, le bilan, il est... Le parce RRA, rien du tout.
Voilà, et puis il y a des
accords Concorde, rien du tout.
Mais d'ailleurs, ce qui est lié, c'est là, on a le budget capé qui ressort avec la proposition de Bernie et Sauber notamment, qui dit que ça serait bien de profiter justement des accords Concorde pour pouvoir remettre ça sur la table. Et on revient sur le fait de Mercedes, quoi. C'est ce que dit Sauber. On n'a qu'à donner un budget limite aux équipes et derrière, on les laisse faire ce qu'elles veulent. Les équipes qui sont bonnes en simulateur, bah elles font du simulateur pour se développer. Les équipes qui sont bonnes pour faire des opérations sur la piste pour développer leur voiture comme Ferrari, bah on les laisse faire. On les laisse, on leur laisse de la liberté technique. Mais on leur fixe un cap budgétaire à respecter. Mais derrière, le truc, c'est qu'il n'y a personne qui veut faire respecter ça, quoi. Quand tu donnes ça aux équipes, bah, c'est comme dire à des gamins, on vous donne un paquet de bonbons, les enfants. D'accord? Vous devez en prendre soin. D'accord? Mais c'est vous qui décidez.
Voilà. Après, le problème qui est soulevé sur les restrictions de budget, c'est Horner qui l'a soulevé dans l'article sur le RRA.
Oui.
Où il dit que, grosso modo, si tu mets une restriction de budget, les écuries qui sont issues de constructeurs comme Ferrari ou Mercedes, elles vont pouvoir diminuer le nombre d'employés au minimum et déléguer à leur compagnie mère les activités, quoi. Et du coup, à pouvoir concentrer le budget sur les tests, sur les souffleries et tout ça, et pas sur le personnel.
Donc on parle bien de Christian Horner, hein, le patron de Red Bull, la première équipe qui a été soupçonnée de faire sauter le RRA.
Oui, c'est ça qui est marrant aussi dans cet article.
Non, puis voilà, mais en plus, après derrière, c'est ça aussi le problème, c'est que en même temps, Horner a dit ça, mais il veut pas non plus que ce soit la FIA qui gère. Tu mets sur chaque équipe, tu leur mets un, comme on fait avec le fisc, tu leur mets un contrôleur derrière qui est chargé de déplucher leurs trucs, de dire voilà, vos employés ils sont bien payés par Scuderia Ferrari, d'accord, ok, et pas par Ferrari constructeur, et basta quoi. Il suffit juste de définir des règles. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui il y a personne qui veut définir des règles.
Bah ils veulent pas.
De toute façon, les écuries menacent à la première contrariété. Enfin c'est inextricable comme système.
Oui.
Voilà.
Je veux dire, Ferrari, la Formule 1 a autant besoin d'elle qu'elle de la Formule 1. Enfin, c'est.
Faudrait c'est ressusciter Balestre, en fait.
Faudrait ressusciter Balestre. Je sais pas si c'est une bonne idée. Ah.
On a perdu quelqu'un, non?
Oui, ouais. Gus, il a une panne de micro.
Tu veux que je t'envoie mon micro de la dernière fois?
Ici Radio Bagdad.
Les Français parlent au français.
Oula.
Allô?
Allô?
Entends la mer.
Vous m'entendez?
Et on s'est foutu de ma gueule pour moins que ça.
C'est quelque chose quand même.
Alors nous retrouvons Gus en direct d'Islamabad. Bonjour Gus, à l'heure, que peux-tu nous dire du contexte du pays actuellement?
Eh bien ici c'est la guerre, il y a une pénurie de micros.
Donc messieurs, puisqu'on est de nouveau réunis, on va passer à l'actu de la semaine, hein. C'est celle qui a été le plus citée. Puisque je pensais même qu'elle pouvait faire le grand chelem, ça n'a pas été le cas.
Ah non, il y a Steph Kerr.
Steph Kerr l'a cité. Flo l'a cité. Je l'ai cité. Ben l'a cité.
Oh, c'est le Grand Prix de France.
C'est en effet le Grand Prix de France.
C'est normal. Ben, il n'est pas français, il ne peut pas comprendre.
Beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Donc en effet, ça a commencé d'abord avec un article, en tout cas une citation dans Le Parisien, qui a dit donc jeudi que... on apprendrait peut-être des choses le vendredi, voire même que le Grand Prix de France serait annoncé le vendredi, puisque vendredi dernier, il y avait une course d'European Le Mans Series, si je me souviens bien.
D'European.
Ouais.
Les 6 heures du Castellet, pardon.
Voilà.
Entre celui qui dit l'European Le Mans Series et Fab qui nous dit le Castellet. Genre, c'est les Castellets du Sud. Alors, dans mon Castellet, qu'est-ce que je mets? Des gros haricots, des concombres, des saucisses. Un bon cassoulet de chez le grand-père.
Vas-y, Maïté, fais-nous une bonne recette. Oh, donc... mais alors, dites donc.
Non, mais je suis dit, c'est européenne, pas européenne.
Ouais, bah oui. Bah, excuse-moi pour une fois que je rate un accent étranger. Enfin, en tout cas, il y avait une course au cassoulet. En effet, François Fillon s'est déplacé. Il a fait une conférence de presse pour finalement dire ce que à peu près tout le monde savait déjà, c'est-à-dire qu'il y a des discussions, qu'en effet apparemment il manquerait 2 millions d'euros hein, pour finaliser le budget. Donc ça discute, mais pour l'instant il y a rien de concret.
Ouais.
J'ai envie de dire peut-être qu'il a changé vendredi. C'est vrai que nous, en tant que fans de F1, on était au courant du dossier. Je pense que beaucoup de gens qui ne sont pas forcément fans de F1 ont appris justement qu'il y avait un possible retour du Grand Prix de F1 ce vendredi. Ouais.
Mais est-ce que les gens ont quelque chose à foutre, quoi? Enfin, sincèrement, si t'es pas fan de Formule 1, le Grand Prix de Formule 1, tant qu'il est pas officiel, t'en as rien à faire. C'est là où, enfin, je trouve que cette conférence de presse ne sert à rien. C'est aller au Castellet pour nous dire quoi? Il nous dit même moins qu'avant. C'est-à-dire qu'il nous dit, voilà, écoutez, apparemment, ça aura lieu au Castellet puisqu'il est au Castellet.
Oui.
En plus, il sait même plus si ce sera avec la Belgique qu'on fera le mi-temps. Donc voilà, on a même reculé dans le dossier. Donc aujourd'hui, on sait même pas avec qui on va partager le Grand Prix.
Ça fait 2 mois quand même qu'on nous dit que c'est pas très loin d'être signé et que pour l'instant, il y a rien finalement.
Bah voilà. Faut occuper le terrain. Il y a une échéance, il paraît.
Ah bon ?
Et c'est ça qui est étonnant, c'est qu'on pourrait croire que va rien se passer avant l'élection. Il nous disait, vous inquiétez pas, même s'il y a l'élection, on va s'occuper de ce dossier. Et finalement, vu comme c'est parti, il n'y aura rien.
Tu veux dire qu'ils ont eu 5 ans pour faire des trucs et qu'ils les feront les uns?
Ça a mis en colère d'ailleurs le conseil général de Nièvre, puisque Fillon a dit que ce Grand Prix ne serait pas subventionné par l'État, que les 2 millions, il fallait les chercher ailleurs. Et un conseiller général de Nièvre a dit que l'État avait jamais subventionné. Je crois qu'il y avait juste eu une aide de 300 000 euros. Donc c'est pas du tout la même chose que 2 millions par an.
Ouais, enfin, je pense que la Nièvre devrait pas trop chercher à dépou, parce que les conditions dans lesquelles ont été attribués Magny-Cours, voilà, c'est quand même aussi des histoires autour de la construction, qui était la région de Pierre Bérégovoy, qui était premier ministre de François Mitterrand, au début des années 90, c'est pas toujours très clair non plus.
Ouais, j'ai envie de dire qu'il fallait pas, justement, pas qu'il y ait d'annonce, au contraire, que ça se fasse tout doucement, parce que si les écologistes venaient à apprendre qu'il y a un Grand Prix de France qui se prépare, il va y avoir un putain de lobby. Je vous dis pas.
Moi, ce que je regrette aujourd'hui, c'est qu'on n'entende pas les candidats se prononcer là-dessus. Alors, c'est vrai que c'est pas non plus un sujet majeur. Mais c'est vrai que ça aurait été intéressant d'avoir les opinions des différents candidats pour savoir ce qu'ils pensent. Ne serait-ce même que du fait d'avoir un Grand Prix en France, quoi, tout simplement.
Ouais, mais enfin, moi, ce que j'ai peur, et ça, c'est une opinion tout à fait personnelle, et j'ai bien conscience qu'elle n'est pas partagée, c'est que moi, à vrai dire, le fait qu'on ait un Grand Prix en France, je m'en moque. Je m'en moque dans les conditions dans lesquelles on veut mettre en place un Grand Prix, parce qu'il faut savoir quand même que le Grand Prix qu'on veut mettre en place, c'est un Grand Prix qui va se dérouler au circuit du Castellet. Circuit du Castellet qui est quand même un circuit, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Tom Dillman, bon il a une petite légitimité quand même, il est pilote, qui parle d'un tracé qui est quand même pas le plus excitant, qui est insipide, c'est ce que je pense aussi de ce tracé, qui est quand même un tracé qui a beaucoup servi à faire des essais, donc un tracé aménagé pour des essais, donc c'est à peu près à Abu Dhabi, quoi. Donc voilà, non mais un circuit assez peu intéressant. De mon point de vue, je pense qu'on mérite. Enfin, déjà, moi, je pense qu'on mériterait mieux si on devait retourner au calendrier. Mais en plus, je pense que Spa mériterait mieux en termes d'alternance. Et à mon sens, d'un point de vue purement sportif, si le Grand Prix de France revient dans ces conditions, moi ça me satisfera pas du tout.
Aujourd'hui, sincèrement, quelle est l'autre alternative qui est au standard de la Formule 1? On peut critiquer Bernie Ecclestone autant qu'on veut, mais aujourd'hui, quel est le circuit qui est au standard actuel de la Formule 1 qui peut prétendre? Moi j'en vois pas. Magny-Cours,
oui,
d'accord.
Voilà.
Mais Magny-Cours, sincèrement, moi je trouve que ça reste quand même une belle bouse.
Oui, mais de toute façon, oui.
Le Castellet, le circuit, moi je sais pas, j'ai pas trop d'opinion, faudrait que j'arrive à rouler dessus un jour, donc on verra quand je roule là-dessus. Je vais faire confiance à Dillman, mais
c'est quand même un circuit très plat, en plein vent, voilà, c'est pas non plus, ouais, en effet, c'est un circuit rapide dans son tracé, mais après.
On y a déjà couru, les courses étaient, pour ceux qui ont eu l'occasion d'en revoir ou qui ont vu en direct des courses, c'était quand même pas folichon, hein.
Mais après, c'est voilà, c'est aujourd'hui à quoi on peut prétendre, c'est-à-dire que c'est soit on fait un Grand Prix de Formule 1 en France sur un circuit pas terrible, mais derrière il faut enclencher un projet soit de rénovation d'un circuit, soit de création d'un circuit. C'est quand même pas ce qui manque. Enfin, on a quand même des pilotes en France, des mecs qui savent faire des circuits. On n'a pas besoin
les projets. On a vu ce que ça a donné. Hein.
Aujourd'hui, j'ai envie de dire, le problème c'est que il y a un standard Formule 1 et qu'aujourd'hui il y a aucun projet en France qui est au standard. Alors on pouvait très bien dire à une époque, oui, mais les standards Barney Clotstone ils sont trop élevés. Mais quand on voit ce que fait l'Angleterre avec le circuit de Silverstone depuis 2-3 ans, qu'ils sont en train de mettre des millions, d'investir, etc., parce qu'il y a une vraie aussi ambiance derrière.
Oui, mais voilà, c'est ça aussi.
Britannique, etc. Je pense que, est-ce qu'il faut tout de suite se précipiter pour avoir un Grand Prix aujourd'hui ? Est-ce que vraiment on a besoin d'un Grand Prix de France parce qu'on est la France et qu'on est convaincu ?
Non, mais c'est ça, oui.
On n'a fait aucun effort pour garder notre Grand Prix. Alors aujourd'hui, on veut essayer de le récupérer, mais il fallait déjà commencer par sauver notre patrimoine. On a quand même un patrimoine de circuits, etc., qui aujourd'hui est réduit à que dalle. Enfin,
c'est vrai que ça pose la question de savoir si la France est vraiment un pays de Formule 1 au final.
Non, parce que ce que dit Prost, enfin.
De toute façon, la France n'est pas un pays de sport, au sens engouement sportif. Hein, oui. Je veux dire, je pense qu'on peut le voir dans les sports majeurs dans le monde et qui remplissent les stades ou les arènes, les tribunes dans le monde. C'est comme le foot.
On en parle souvent.
Un stade qui est à 100% de remplissage, quoi.
En France, on est un pays de sport quand on gagne. Le problème, c'est qu'on n'est pas prêt de laisser le temps. On le voit avec l'équipe de France actuellement, quoi. Voilà, si l'équipe de France, elle gagne pas, tout de suite, on est en panique. On se dit, ah, c'est de la génération perdue. Mais il faut commencer aussi à voir à long terme. Je trouve qu'en France, on n'a pas la patience de faire mûrir les projets. On veut tout de suite un projet parce que, voilà, on pense que ça va arriver tout cuit et qu'on n'a pas envie de travailler derrière.
C'est en même temps c'est cette espèce de complexe de supériorité, cette espèce de pays qui a été une grande puissance qui aujourd'hui se sent décliné et qui ne fait aucun effort, qui voudrait être à la tête du monde mais sans faire aucun effort.
Voilà, faut que ça rapporte mais que ça coûte rien.
Voilà, exactement.
Bon, on change de nationalité, les gars.
Non.
Mais si, on va passer aux actus, ou à l'actu dont tout le monde se fout. Alors, on va quand même revenir à ce magnifique sondage, cet incroyable sondage. Hein. Souvenez-vous, il y a déjà, combien, 2-3 semaines, nous vous demandions quelle était l'actu de Steph Corr dont tout le monde se fout. Vous avez été 107 à voter. Quand même, un joli score. Bravo. Mais ce n'est pas ça qui est exceptionnel. Non, non.
Ce qui est exceptionnel. Est parfaite.
Alors, elle est presque parfaite.
Ah bah
oui, c'est comme un ticket.
C'est presque parfait. Hein. Puisque, en effet, sur les 4 propositions, il y en a 3 qui sont arrivées ex aequo avec 27 votes et 25,23%. Lehman Brothers, qui détenait 15% de la F1, Pirelli qui entamait sa deuxième saison de F1 et Vettel qui n'a plus de sponsor personnel, sont arrivés à égalité. C'est et la loose de la loose, hein, pour un vote. Hein. Pontet Zemolo qui revient à la charge de la troisième voiture est arrivé quatrième avec 26 votes.
Il est fort ce Steph Corr quand même.
Il est très fort.
Le roi du consensus.
Le pire c'est qu'il a quasiment refait le coup cette semaine.
Hein. Enfin, il y en a peut-être une.
Ouais, mais elles étaient vraiment intéressantes cette semaine.
Non, c'est vrai. Bon, alors parmi les actus qu'on a cité, alors il y en a une que il y a que moi qui l'ai cité. Hein, c'est Adam Parr qui démissionne de chez Williams.
Oula.
Pas pour la blague, mais juste parce que voilà, je trouvais ça étonnant. Sinon, il y avait aussi Raikkonen, retour gagnant, que Steph a donné, que moi j'ai pas pu m'empêcher de mettre aussi. Bon, il y a aussi.
non, mais ça monte, c'est pas une actu.
Si, c'est un question.
Non, c'est pas une actu, ça, on en parle dans le SAV d'après Grand Prix, on va quand même pas en parler dans le SAV de l'actu. Il y a des règles, messieurs, essayons de rester collés aux règles.
Il y a Brundle, donc pour Brundle, la réglementation est faite pour ralentir Red Bull. Alors ça, c'est Steph et Fab qui l'ont cité. Comme
oui, je voulais soutenir Steph quand même.
Non, mais c'est pas...
Non, mais si, je trouvais intéressant, moi, la déclaration de Brundle qui se réveille quand même maintenant, quoi, qui se rend compte que la réglementation est toujours faite pour faire chier les équipes qui dominent.
Oui, j'adore.
Il est marrant, Martine.
La F1 qui va verser un dividende d'un milliard de dollars, ça, c'est Steph, hein, qui ne pense qu'au fric, Steph, c'est pour ça.
Moi, je l'ai enlevé, mais je me suis dit, il a mise, bon, ça doit pas être terrible.
Les gars, ce n'est pas... Il faut que je le défende, c'est pas parce qu'il choisit une une actu qui est forcément de merde.
Oui, non, quand même,
c'est vrai. Non, mais c'est pas. C'est, je rigole, hein, mais.
Bon. Et c'est vrai que c'est
contre... Non, ne rigole pas, Gus Gus.
Non, parce que c'est quand même la prochaine est quand même bien merdique, hein, faut bien le dire. Donc, de Steph, c'était les meilleurs poissons d'avril.
Ouais, ouais. Non, elle était bonne, tu vois, celle-là.
Ah, tout ça. Mis,
elle était bonne.
Parce que tu voulais faire ton auto-promo.
Non, mais non, on aurait pu parler des autres.
Si on parlait de Jean, allez-y. Ça vous intéresse pas, Jean?
Ouais, je veux bien parler de Ralph Schumacher, ça me dérange pas. Mais je suis pas sûr que l'audience tienne alors.
Jean, allez-y, qui découvre qu'à Indianapolis il n'y a pas de gravier.
C'est là où t'as été trop fort. Tu t'es trahi. Voilà, t'as voulu céder au bout.
Mais en fait, je me disais, j'ai lu ton article et je me suis dit. Ah, ça me manque d'un petit truc, tu vois, d'un truc de l'authenticité, tu sais, du Pompéi de chez nous. Et je me suis dit, mais voilà, Gravier Muret.
Oui.
En plus, moi, je l'aime bien, Jean, allez-y.
Alors, dis-nous, ouais. Tu t'es intéressé au retour du Grand Prix d'Argentine en 2013?
Intéressé, c'est un bien grand mot. Bon, non, mais voilà, c'est-à-dire qu'entre le projet d'un Grand Prix d'Argentine en 2013, moi je serais totalement pour, en plus c'est la Mar del Plata qui est, non, que ça serait prévu.
Toi, tu es en train de réserver une accréditation là.
Oui, voilà. Et non, mais voilà, ça serait sympa, surtout l'Argentine, quand même, il y a une histoire. Il y a Fangio, enfin, moi je trouve que ça serait logique qu'on ait un Grand Prix là-bas. On voit en plus qu'avec le Paris-Dakar, c'est un pays qui est fervent et qui vraiment s'intéresse au sport et compagnie. Donc voilà, je serais content d'y aller. Mais du coup aussi, tu te dis, voilà, bon, alors l'Argentine, là maintenant la Thaïlande qui veut un Grand Prix, apparemment, bientôt t'auras un Grand Prix à Tambouctou, au Pakistan.
Voilà. C'est bien, en Pakistan, comme ça certains d'entre nous seront déjà là-bas.
Il y a l'Afrique du Sud qui est en projet, il y a, ben, voilà. À un moment donné, tu te dis, voilà, on va avoir que 20 Grands Prix. La France peut pas faire l'alternance sur 5 saisons.
Elle peut tenter l'alternance sur 5 continents, par contre.
Voilà.
Sinon, on a eu, bah, encore toi, Dino, Sutil qui lance sur le baquet de Perez.
Enfin, voilà, c'est le mec qui aime bien le sang, tu vois. Quand il voit un mec, il a envie de lui jeter du champagne en lui ouvrant les veines. Quand il voit un podium de Perez, il dit, baquet. Voilà, c'est
le beau tour, quoi.
Tu as mis aussi Caterham mis à l'amende.
Ah, c'est Bass Payne.
Qui risque une amende?
Oui. Sérieux, mais c'est nul.
Non, mais sincèrement. Non, mais ça, je trouve que c'est super important, quoi.
Ouais.
McLaren, ils ont pris 100 millions d'amende pour une affaire d'espionnage en 2007. Là, on sait qu'apparemment, il y a un jugement qui a été rendu disant que, où ils ont utilisé des trucs, mais ils sont pas coupables ou un truc dans le genre. Enfin, le jugement qui veut strictement rien dire. Et les mecs, ils resteraient impunis, quoi. Moi, je trouve que ça serait normal qu'ils soient punis. J'aime bien Caterham, mais ça serait normal qu'ils soient punis s'il y a eu utilisation d'informations frauduleuses.
Sur les premières photos de la Lotus au départ, fin 2009, ça se voyait que l'aileron avant c'était exactement le même que celui de la Force India, quoi.
Voilà, pour le coup, j'ai pas envie de défendre McLaren, mais c'est vrai que McLaren, ils sont pris 100 millions pour une affaire où, voilà, où on leur a pas fait de cadeau. Et là, comme c'est une affaire moins politique et une petite équipe, bah voilà, ça fait beaucoup moins de bruit, alors que je pense que c'est tout aussi important.
Donc, comme je disais, donc Ben, a pris Sauber en faveur du budget plafond, mais ça, on l'a évoqué. Il a aussi cité la chronique d'Axel sur Kobayashi, qui est sorti là, aujourd'hui même, pour, je cite, montrer qu'il ne faisait pas que de l'auto-promo.
La promotion indirecte.
Gus, tu nous as cité, alors, là encore quelque chose dont on a parlé, Red Bull, qui ne veut pas du RRA contrôlé par la FIA.
Oui.
Mais aussi Massa. Tiens, on n'avait pas parlé de Massa encore aujourd'hui. Massa, un pilote face aux rumeurs.
Ouais, moi ça m'avait semblé un sujet brûlant, quoi.
Bah, je voulais le mettre au départ, puis ça m'a agacé en fait d'encore en parler.
C'est-à-dire que nous, dans la dernière émission, on l'a plus que ça brûlait plus et on l'a bien cramé quand même, Massa.
Non, on n'a pas été au.
Quand même. Enfin, Gus, tu nous as parlé du zéro pointé pour les pilotes français, qui était.
La chronique d'Axel.
Voilà, d'après l'Australie, si je me souviens.
Après Melbourne.
Après Melbourne. Et sinon, bah Ben et Dino, cette grande question, Bahreïn ou pas Bahreïn?
Oui, à noter que donc ce week-end, on a un journaliste, un journaliste amateur qui a été tué d'une balle parce qu'il était en train de photographier une manifestation, enfin la répression d'une manifestation. Voilà, donc on est à 3 semaines, un peu moins de 3 semaines maintenant du Grand Prix, c'est pas...
De toute façon, ils ont été clairs. Hein. On ne peut pas assurer la sécurité. Je crois que je sais pas ce qu'il faut. Bah, c'est bon, pas ce qu'il voilà. faut à la F1, quoi.
Les équipes ont dit qu'elles se réuniraient en Chine. Ça ah, me paraît déjà. Ça me paraît déjà tard, quoi.
Elles ont un plan de secours.
Ouais.
Il y a combien de temps entre la Chine et les Bahreïn?
Une semaine.
Ouais, c'est.
Il y aura même. Déjà des...
Tu vois, c'est même à se demander si ça n'a pas été fait exprès qu'il y ait une semaine. Histoire de dire comme ça on pourra pas trop parler entre les deux, il y aura pas le temps de réfléchir, on va y aller quoi.
Comme ça ils diront ouais mais c'est trop tard.
Dit bon ça sort quand même un petit peu le calendrier, on aurait très bien pu mettre la Chine.
C'est clair, qui a fait le calendrier.
Surtout c'est vrai que la route entre Malaisie et Chine c'est super long à faire quoi.
Oui,
ça alors bien 3 semaines. Semaine, faire la Malaisie Bahreïn, c'est pas gênant.
Alors messieurs, pour le sondage cette semaine, on propose l'actu principale ou vous avez autre chose en tête?
Bah déjà, Shinji, on n'a pas choisi notre actu qui dont on s'en fout.
C'est vrai, tu as raison.
Faut que tu nous refasses le bilan s'il te plaît, Shinji.
Alors, il y a Adam Park qui démissionne de chez Williams, Raikkonen retour gagnant, Brundle, la réglementation est faite pour ralentir Red Bull, l'AF1 va verser un dividende $1 milliard, les meilleurs poissons d'avril. Le retour du Grand Prix d'Argentine en 2013, Sutil lance sur le baquet de Perez, Caterham mis à l'amende, Bahreïn ou pas Bahreïn, Sauber en faveur du budget plafond, la chronique d'Axel sur Kobayashi, Red Bull qui ne veut pas d'un RRA contrôlé par la FIA, Massa un pilote face aux rumeurs, zéro pointé pour les pilotes français.
J'ai envie de dire Sutil. Je sais, c'est moi qui l'ai mis, mais quand même, je m'en fous en fait. Je voulais en parler, mais
c'est vraiment tordu là.
C'est vrai qu'on s'en fout.
Oh oui, non, mais voilà, je voulais en parler parce que voilà. Puis en fait, en commençant à en parler, je me suis dit non, mais en fait, je m'en fous. Et voilà, je me fous
quand même le dividende d'un milliard quand même.
Ouais, alors sur ça, j'aimerais quand même une réponse sur le commentaire que j'ai mis. Si j'ai pas, je sais pas si j'ai bien compris le truc. Ça veut dire quoi? Donc, ils vont se verser $1 milliard à eux-mêmes. Et ils vont choisir de payer plus cher leur prêt, c'est ça?
Ouais, c'est ça, je crois. Ouais. Je crois qu'ils ils échelonnent un peu plus leur prêt et ils se versent $1 milliard tout de suite, quoi, si j'ai bien compris.
C'est trop fort, ça.
Bah, tu vois, rien que ça me fait chier, je vais prendre celle-là, tu vois.
Ouais, pareil.
Oui, je crois que ça s'impose, tu vois, Philippe.
Ouais.
Allez, je vais, là, tout d'un coup, Sutil m'intéresse. Allez, va pour les dividendes d'un milliard.
Je suis d'accord.
Voilà, l'unanimité.
Très bien. Donc, on va vous demander quelle est l'actu principale hein, pour vous, hein, parmi les quatre principales hein, dont on a parlé. Donc, il y aura le Grand Prix de France, hein, beaucoup de prix pour pas grand-chose. Les accords Concorde qui ont été signés. La polémique sur le W-Duct ou le F-Duct. D'ailleurs, on doit plutôt dire quoi?
C'est le F-Duct passif.
Le F-Duct. Ouais, mettre ça, le F-Duct.
Il y a aussi la formulation de Christophe Malbranche, le DRS-Duct.
Donc, messieurs, on va passer aux citations. Quelqu'un veut commencer?
Moi
Fab Gus
Moi
Moi j'ai oublié, donc je vais chercher pendant 5 minutes pendant que vous parlez.
Ça tombe bien, c'est la durée de ma citation.
Oh putain.
Ouais, c'est une citation sur Fernando Alonso, donc forcément.
Oh non, c'est une citation. Non, attends. Bon, vas-y. Ça serait pas un mec qui serait sud-africain par hasard?
Oui, tout à fait.
Oh putain, non. Oh non,
c'est le risque.
Donc c'est une citation de effectivement Johnny Scheckter qui, c'est pas une citation récente, c'est une citation un peu vieille, enfin elle a 3 semaines, qui disait dans le Guardian juste avant le début de la saison. Il disait: Fernando est un des meilleurs pilotes, bien sûr, mais je ne le classerai pas comme étant le meilleur du peloton. Je le vois comme un solide performeur qui est capable de faire un bon résultat tant que vous lui donnez la bonne voiture. Voilà.
Non, mais il a... c'est très intéressant ce qu'il dit.
Non, mais voilà, on va quand même lui envoyer le DVD du Grand Prix de Malaisie quand même.
Oui, bah, qu'il y a une voiture réglage pluie, moi aussi je peux rouler sous la pluie. Arrêtez un petit peu de monter Fernando Alonso sur un piédestal. Ouais, je suis d'accord avec Jody.
Non! J'ai dit, retiens-moi!
Moi, Jody, oui!
Non, j'ai dit, retiens-moi!
Allez, je vais faire la mienne parce que Fab, il faut qu'il en trouve une autre et Gus,
oh non,
il cherche.
Merde.
Alors, la deuxième, il va te la piquer. Hein. Vas-y, pique-la lui.
Non, alors une double qui concerne un même cas de 2 personnes.
Non.
L'une, c'est: je ne veux pas avoir à vivre une autre année comme la dernière. C'est Sutil qui retire son appel hein, dans son affaire. Et en effet, donc il vise quand même un retour en F1. Hein, voilà. Eric Lux, qui on n'a pas entendu, mais il est pas rancunier, Eric Lux. Je serais heureux pour lui s'il revenait à la course automobile et s'il retrouvait un volant. Pour moi, tout fait partie du passé maintenant. Vous noterez qu'il dit pas un volant en F1.
C'est implicite.
Tu voudrais dire, il aurait parlé.
Quand Twingo, il retrouve un volant.
Voilà.
Donc, du badminton aussi. Il retrouve un
volant. On disait même qu'il était prêt à prendre le volant gratos.
Oui.
Enfin, suite à l'affaire, en fait, en échange de l'abandon des affaires, il était prêt à rouler gratos pour Lotus. Mais ce n'est qu'une rumeur. Alors Fab, t'as trouvé autre chose ?
Oui.
Ah, c'est bien.
Ah, ça a été rapide. C'est la citation, c'est « Je devrais avoir 50 points ».
On n'est pas de chercher bien loin.
Ah non, bah vous m'obligez aussi à me rabattre. Hein. Enfin, je dis ça, je dis rien.
Tu te rabats sur Lewis Hamilton.
Généralement, c'est l'inverse. Non, mais bon, voilà. Intéressante citation. Qui montre qu'il en veut.
Ouais, enfin, c'est juste oublier le fait qu'il y a d'autres personnes avec lui sur la piste, quoi. Je suis d'accord, il a eu des circonstances, le mauvais départ, le safety car, la pluie, tout ça. Mais c'est les mêmes circonstances pour tout le monde, quasiment, quoi. Enfin, on a bien vu que sur la fin de la course en Malaisie, il n'était pas capable d'être dans le rythme des autres, alors que pourtant, il a la McLaren qui est la meilleure voiture du plateau, quoi.
Ouais, mais bon, vous êtes un peu sévère.
Oui, oui, mais j'avoue, je suis un peu sévère.
Et toi, t'es
mais...
trop gentil. Voilà.
Bon, on me l'a toujours dit. Mais je n'aime pas le conflit. Je ne suis pas un horrible ferrariste. C'est personne là qui cherche tout le temps, constamment.
Ouais.
Non, mais bon, je pense, voilà, c'est vrai qu'on retient ça de l'article, mais bon, il en dit plus que ça, ça va plus loin, bon. C'est vrai que dit comme ça, je devrais avoir 50 points, c'est un peu, ça paraît présomptueux. Mais bon, il dit ça tout en relativisant, tout en disant que c'est peut-être de sa faute à lui, donc bon, à partir de là...
C'est ce qui est plaisant, quoi, c'est qu'il cherche pas d'excuses. L'an dernier, il cherchait un peu tout le temps des excuses, il faisait un peu son Sébastien Vettel, ce que fait Sébastien cette année. Là, tu sens que, bon, voilà, bon, j'ai retenu les leçons, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour essayer de progresser ? Plutôt que de tout le temps rejeter la faute sur les autres, sur son équipe, etc. Là, il prend aussi sa part de responsabilité, et je trouve qu'il a peut-être enfin tiré les leçons de la saison 2011.
C'est peut-être les premiers effets de l'arrivée de Didier Coton à ses côtés.
Ouais, tout à fait.
Quelqu'un qui connaît les champions du monde, qui sait comment les manager, qui a beaucoup d'expérience pour faire ça.
Ah, c'est la boîte. Hein. je trouvais pas d'autre moyen de la sortir.
C'est scandaleux.
Je me suis dit, allez, Dino, trouve un jeu de mots, puis j'étais sorti par le silence.
T'avais le choix entre la Watt ou un truc genre hydrophile et tout ça. Non, c'est bien, c'est la Watt. Très bien.
Voilà.
Franchement, voilà.
Faut reconnaître qu'un jeu de mots avec hydrophile, c'est plus dur.
C'est plus dur, c'est vrai. Mais ouais, c'est un beau défi.
On te fait confiance, Fab.
D'accord,
c'est trouvable.
Écoutez, d'accord, je commence à y plancher. Je promets dans les deux semaines qui vient un article où il y aura le mot hydrophile. Cherchez bien.
Ça c'est drôle, ça, on devrait se donner des gages comme ça de temps en temps, tu vois. Genre, s'obliger. Non mais tu sais, sincèrement, c'est un pari qu'il faut qu'on qu'il faut
bah oui, qu'on mais fasse, bon, moi c'est je suis d'accord, mais je sais pas si tout le monde le sera.
À chaque fois qu'on se voit, non mais à chaque fois qu'on se voit dans le mag, faut qu'on se fixe un pari. Pour la prochaine fois qu'on se verra, c'est de réussir à glisser un mot tout pourri dans un de nos articles.
Faut que ce soit dans le contexte, hein, quand même, hein, parce que bon.
Oui, mais voilà, ben voilà.
Bah oui, on va tout.
Bah ouais, hydrophile.
Hydrophile, tu le places au milieu d'une phrase qui n'a aucun sens.
Si pleut, hein, y a un créneau.
Non, ne dis rien, hein, Shuji.
Ah oui, un créneau.
Donc
oui.
Voilà, donc ton challenge, tu me trouveras un mot. Moi, le mot qu'il faut que tu mettes, c'est hydrophile, jusqu'au prochain Mac du SAV où on se rencontre. Et d'ici la fin de l'émission, tu me donneras un mot que je devrais utiliser dans un de mes articles.
Ok.
Ça va, on est tranquille, nous, Shinji.
Ouais. Sinon, Gus, ta citation.
Alors, une citation de Mika Salo. j'ai tellement mal au cou et aux mains que j'arrivais à peine à porter mon sac à l'aéroport.
Ça, c'était avant de prendre le volant de la Ferrari.
Non, mais voilà, c'était plus pour faire un petit rappel par rapport aux ces soi-disant essais de Mika Salo, qui en fait c'était juste des démonstrations lors des Ferrari Racing Days à Suzuka, au cours de laquelle il a piloté une F2008 tout ce qui est plus normal, où il n'y avait pas d'échappement spéciaux de pneus Pirelli, de course, tout ça, c'est, voilà. C'était
vite. La preuve, il n'y avait aucune pièce de 2012, c'est qu'elle allait vite.
Internet, du garage où il y a les voitures qui sont entreposées, il y avait deux F2008, il y avait une F1 de 95, une autre de 2003, enfin, et les pneus n'étaient pas marqués, donc on peut se douter que c'est pas forcément des Pirelli, mais des Bridgestone qui étaient utilisés en 2008, quoi.
Mais en même temps, c'est aussi un peu lui qui, enfin, c'est un peu lui qui a provoqué la chose en disant, il me convoque, mais je sais pas trop.
Pourquoi.
Juste derrière, il a tenu, je crois une semaine après, à dire, non, non, mais c'est juste pour me faire essayer une voiture pour célébrer je sais plus quoi et compagnie. Oui, enfin, dans ce cas-là, il fallait le dire dès le départ, quoi. Il fallait pas dire, oh, je sais pas pourquoi il m'a mis.
Messieurs, sur ce, on va passer au quiz, à la deuxième partie du quiz.
Au moment où on prend 2 points.
Oui, tout à fait.
Aïe, 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 aïe. Donc, je sors mon chrono.
Je sors le mien aussi.
Je sors le mien.
Oui.
La question est donc, qui était Chaleo Juvidia et pourquoi a-t-il fait l'actualité récemment? Top chrono.
Chaleo Juvidia. Il est monté dans une F1?
Non.
C'est quelqu'un de réel?
Oui.
C'est lié à un sponsor?
Plus ou moins, oui.
Un sponsor actuel d'une écurie?
Oui.
C'est bizarre, ça me dit quelque chose, ça, Chaleo Juvidia.
Chalet, oui.
C'est un nouveau sponsor qui serait arrivé par exemple chez Marussia ou un truc dans le genre?
Non.
Donc c'est un sponsor qu'on connaît depuis quelques années?
Oui.
Donc la question c'est qui il est et pourquoi, c'est ça?
Qui il est et pourquoi il a été dans l'actu?
C'est lié à Force India?
Non.
C'est lié à une écurie?
Oui, oui.
Plus oui, ou moins.
À Red Bull alors? Ce serait lié à Red Bull?
Oui.
Alors. C'est pas le partenaire de Matechitz?
Plus que ça en fait.
Bah c'est l'inventeur,
c'est
enfin.
C'est le Thaïlandais qui avait la formule d'origine du Red Bull, puisque Matesic, il est allé en Thaïlande.
Voilà.
C'est là qu'il a découvert le Red Bull et qu'il est allé le réimporter en Europe.
Ça a pas tenu 2 minutes.
Ah, c'est pas fini.
Fini. Et 6-0, ouais.
Ah, mais non, c'est pas tout
pas
à fait fini.
Eh, c'est
il
pas
reste,
fini.
Il vous reste 3 minutes 30 pour savoir pourquoi il a fait l'actualité.
Pourquoi
il a lié à l'écurie.
Non, c'est pas lié à l'écurie.
C'est lié à la société?
Non plus.
C'est un truc qu'il a fait en dehors?
Oui.
Il est candidat aux élections en Thaïlande, mon truc dans le genre, non?
Non.
C'est un truc lié à la galaxie Red Bull?
Non.
Il est birman? De Birmanie?
Non.
Non, d'accord.
Il est thaïlandais.
C'est quelque chose qui s'est passé en Thaïlande?
Oui, je crois, oui.
C'est pas lui qui soutient justement l'idée d'un grand prix en Thaïlande ou un truc dans le genre?
Non. Encore 2-30.
Ça a aucun rapport avec la Formule 1?
Non, ça a aucun rapport.
D'accord.
Ça a un rapport avec le sport en général?
Non plus.
La politique?
Non.
L'économie?
Non.
La culture?
Non.
Avec ma mère?
Je reprends pas.
Papa?
Bonjour madame.
Et demain je vais voir Vettel. Écoute, je suis ton patron. Enfin, ton futur patron. Attends, ça a un rapport avec... Est-ce que c'est insolite?
Non.
Attends, ça a pas de rapport avec la F1.
La F1...
Bah, c'est-à-dire que le rapport avec la F1, vous l'avez un peu trouvé.
D'accord.
Mais c'est un truc d'actualité récente.
Ah oui?
Oui, dans les 3 semaines, là, qui ont...
Il a fait un don, il a...
Non.
C'est pas artistique,
non.
Il a été pris dans un scandale?
Non.
Ah là, je vois pas. On a joué son nom au Scrabble, il a rapporté le max de points, non?
Peut-être, mais c'est pas ça.
Peut-être, oui.
Une minute encore.
C'est bien possible, j'en connais dans des maisons de retraite qui...
Attends, c'est un rapport.
Il y a 2 X, c'est pas possible.
C'est un rapport avec rien, là.
C'est quelque chose qui s'est mis à faire, ou. Non, je sais pas.
Non.
Est-ce que c'est de lui qu'on a parlé, ou de quelqu'un de sa famille?
Ouais.
Non, c'est de lui.
Oh, mais là, attends, faut savoir des trucs d'un Thaïlandais qui a aucun rapport avec la F1. Hein
bah, si, il y a un rapport avec la F1.
Oui, mais. Ça a aucun rapport direct avec la F1. Nous, on essaie d'avoir un rapport avec la F1 quand même.
Bah, nous aussi. Attends, le mec, patron de Red Bull quand même.
Attends, sans lui.
Il est toujours patron de Red Bull.
Non.
Mais il a vendu.
15 secondes.
Il a vendu?
Non.
T'as pas entendu la question.
Il a créé une nouvelle marque de boissons énergétiques?
Pardon?
Il a créé une nouvelle marque de boissons énergétiques?
Non. 5, 4, 3. Deux.
Attends, ça a rien à avec l'F1, quoi. Enfin, en dehors du fait que le mec, c'est un patron, quoi.
Ah oui, le chrono vient de s'arrêter.
Oui, le chrono s'est arrêté, messieurs.
Il est mort?
C'était...
Oui voilà.
Il est mort. Enfin...
Bon...
dire joyeusement, mais oui, il est mort. C'est juste ça. C'est...
Mais il est mort quand?
17 mars 2012, il y a 2 semaines.
Ouais, bon... Ouais, ça n'a pas de lien avec l'F1.
Ah, si, attends.
Attends, ouais, non, sans fil, t'as pas de Red Bull Racing, t'as pas de Toro Rosso, je suis désolé.
Oui, mais en même temps...
Il n'a pas eu les hommages qu'il méritait.
Oui, alors ça, c'est vrai.
Non, mais nous, on a fait ça sur un pilote. Vous faites ça sur un mec qui a inventé la recette du Red Bull, que le mec, on n'a jamais vu sur un circuit de Formule 1, et que ça n'a aucun rapport avec la Formule 1, sauf que le mec, il a des parts dans Red Bull, quoi.
Non, mais attends, c'est le cofondateur de Red Bull, monsieur.
Oui, mais non, mais c'est, voilà, mais ça n'a pas de lien direct avec la F1 ou genre.
Oh là là, mais c'est dingue. Pourquoi c'est toujours toi qui poses des problèmes alors que ton actualité est datée quand même de décembre?
T'arrêtes, je sais pas quoi là.
Non, mon actualité a daté d'aujourd'hui.
Elle date de janvier, il l'a reçu hier ou aujourd'hui son truc.
Voilà, donc c'est lié, je suis désolé.
Ah oui, il y a un mail qui précisait actu récente.
Ah, c'est bon. Récent, c'est aujourd'hui, il fallait suivre
l'actualité. Oui, bon.
Tu nous parles d'un mec
qui est mort il y a quelques jours.
En plus, il est mort sur le fil. Si ça se trouve, je l'ai dit à la dernière seconde. Donc, si ça se trouve, ah bon.
D'ailleurs, tu l'as dit 5 secondes après.
D'ailleurs, je me suis dit, après montage, on est dans les 5 minutes. C'est là qu'on a coupé les blancs. Donc, les gens sont témoins.
Si tu coupes le blanc à nous, il nous restait 2 minutes 30. Hein.
Voilà. C'est vrai. Après, on va se taire et on va attendre les 5 minutes. Bon, ça fait 6 partout, allez.
Bon, un petit topo quand même sur ce monsieur qui nous avait...
Faire la vie d'un mec qui a aucun rapport avec la F1. Non mais je suis obligé de défendre quand même les auditeurs, quoi. On a quand même une émission qui parle de F1, on va faire la vie d'un mec qui a aucun rapport direct avec la F1.
Et l'histoire du Red Bull, la boisson aussi en même temps.
On s'en fout.
Le sponsor qui a remporté les 4 derniers titres.
Si on perd des auditeurs, ce sera de ta faute. Hein.
Je propose qu'on monte notre podcast.
Championnat parallèle. Vite.
Donc, il est né en Thaïlande dans une famille qui, à l'origine, était une famille modeste parce qu'elle élevait des canards et vendait des fruits. On va pas le faire, je suis sûr.
Vas-y, non, vas-y.
Il a fait très peu d'études et il a commencé à travailler pour ses parents. Il est devenu après revendeur d'antibiotiques. Il n'y a pas trop de rapport, mais bon. Il a fondé sa propre société de médicaments qui est la TC Pharmaceuticals. Et c'est à partir de cette société qu'il va développer la boisson énergisante qui va être la base du Red Bull en s'inspirant de boissons qui sont vendues au Japon ou en Corée. Ainsi voit le jour le Krating Daeng. Donc, est-ce que vous pouvez subodorer ce que veut dire Krating Daeng?
Taureau rouge.
Ouais, grosso modo, c'est ça. En fait, ça veut dire le gore rouge, le gore étant un cousin du taureau qui vit en Asie.
Ça fait vraiment contrefaçon chinoise, le truc.
C'est simplement du sucre, de la caféine, et de la taurine et de la vitamine B. Et donc, depuis son lancement en 76, où d'abord c'était distribué sous forme d'échantillons gratuits pour essayer d'appâter un peu le client, cette boisson s'est révélée être un succès commercial dans toute l'Asie.
On fait pareil avec la coke. Au début, ils donnaient des échantillons gratuits, et après les mecs qui venaient, ouais, ça marche.
Donc un gros succès commercial, comme je disais, et ça avait des succès auprès notamment des fermiers, des ouvriers de construction ou des chauffeurs poids lourds, parce que ça leur permettait de lutter efficacement contre la fatigue.
Chauffeurs de poids lourds qui conduisent les camions, qui conduisent les pièces des voitures de Formule 1. Donc il y avait quand même
plusieurs
liens. Il y avait quand même plusieurs liens. Hein.
Non, mais tu te rends compte qu'en disant ça, tu reconnais qu'en fait, il n'y avait pas de lien.
Arrête. Bon, écoute, tu es de mauvaise foi, continue, Gus Gus.
Ouais. Jusqu'au jour où patatras, en 1982, arrive un certain Dietrich Mateschitz. Il vient en Thaïlande pour le compte de l'entreprise où il travaille, qui est une entreprise de cosmétiques.
On va toujours en Thaïlande pour ça.
Oui. Et parce qu'il était responsable...
Je vais mourir.
Non mais, il était responsable marketing de cette marque en Asie, en fait. C'est pour ça qu'il se rendait en Thaïlande. Et... il découvre cette boisson lors de son voyage et il est étonné de constater que ça lui permet de mieux supporter le décalage horaire. Donc rapidement, il va penser à commercialiser la boisson en Europe et il va finir par s'associer avec monsieur Yuvidia et créer en 84 la Red Bull GmbH. L'idée, c'est d'adapter la boisson à la mode occidentale et de créer un marketing fort autour de l'énergie qu'apporte la boisson. Donc le Give You Wings, les partenariats avec les sports extrêmes, etc. Du coup, la recette, elle évolue, devenant gazeuse, donc, et en perdant du sucre et de la caféine. Il faut quand même savoir que dans une canette de Red Bull normale, qui fait 250 ml, il y a l'équivalent d'un verre de café en caféine. Donc, c'est-à-dire que la recette originale était bien, bien corpée. Et donc, depuis, on connaît le succès qu'est le Red Bull. À chaque fois qu'il a été lancé ailleurs, donc par exemple donc en Autriche en 87, après ils sont exportés pour la première fois en 92, c'était en Hongrie et aux États-Unis en 97. Et d'ailleurs, est-ce que vous vous rappelez quand est-ce qu'a été lancé le Red Bull en France ?
Au moment de Bourdais, non ?
2005, 2006, quelque chose comme ça, je crois.
2008, non ?
Oui, c'est 2008.
Allez, 2 points pour Dino. Wouhou !
Non, je comprends pas.
Ah bah là, ça a un lien avec la F1, je suis désolé. Hein. Là, pour le coup, je mériterais 2 points.
Red Bull n'a pas de lien avec la F1, messieurs les auditeurs, messieurs
les... Oui, écoutez bien ce que nous dit Dino. Hein.
Après, vous... Non, mais je parle de l'inventeur.
Oui, bien sûr.
Le mec se fait piquer sa recette par Matthew Schitt, c'est derrière, vient nous dire que ça a un lien.
Non, il s'est fait piquer parce qu'il est quand même actionnaire à 50% de la société. Il est devenu...
Donc il a forcément pris la décision.
Donc retour avec le Red Bull en France, donc lancé en 2008, exactement le 1er avril. D'abord dans une version sans taurine, parce que le gouvernement se basait sur des études, genre la taurine, c'est pas bien. Et donc après que Red Bull... déposé une plainte auprès d'un tribunal, je crois. Ils ont autorisé la version normale du Red Bull parce qu'ils avaient un peu peur de perdre le procès.
Et donc il est mort.
Oui, il est mort le 17 mars. Et d'ailleurs, je voudrais adresser un petit carton rouge à Red Bull parce que je trouve dommage que sur le site redbull.com, dans l'historique de la société, il soit pas cité une seule fois, alors que c'est lui qui a...
Même Red Bull, ils font pas le lien entre ce mec et la F1.
On va passer au répondeur.
Le service après-vente de la F1 vous présente le répondeur du SAV. Vous avez une question ? Nous y répondons.
Alors Dino, cette semaine, avons-nous eu des questions dans notre répondeur ?
Oui.
Ouais.
Nous avons déjà une question.
Oui.
De monsieur Dietrich M. Dietrich, qui nous pose cette question. Cher SAV, après avoir bien écouté cette émission, je me demande moi aussi quel est le lien et la Formule 1.
Il l'a écrite vachement vite, cette question.
Super actif. Et donc, effectivement, je suis d'accord avec Dino et Shinji. Ah, d'ailleurs, je tiens à dire que Shinji l'a dit avant le gong. Hein, et je suis tout à fait d'accord pour dire que Dino et Shinji mériteraient bien 2 points, si ce n'est même pas 3, pour dommage infligé à leur personne.
Ouais. Il faut savoir que Dietrich est le grand témoin de l'émission. C'est le seul auditeur qui a l'émission en direct. Voilà. Seulement.
Nous te remercions de ta sollicitude. Sinon, Dino.
Alors, on a une deuxième question de Christian H. Non, Alors, nous avons une question de Adelin. Bonjour à tous, je m'intéresse à la F1 depuis peu, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas, ce sont les séances de qualification. Bienvenue au club. pouvez-vous m'expliquer le déroulement de celle-ci ? Je ne vois pas pourquoi il y a 3 séances et qu'à chaque séance, il y a des éliminés. Surtout, je ne comprends pas pourquoi les temps s'améliorent entre la Q1 et la Q3. Merci et à bientôt.
Mm-hmm, très intéressant.
Voilà, va falloir que je sois à la hauteur de cet enthousiasme.
Donc, Fab, tu as une réponse ou pas ?
Oui, déjà, j'aimerais déjà saluer Adelin, hein, qui porte un prénom qui signifie noble. Bravo à lui. Et c'est quand même intéressant, car c'est un prénom qui est assez peu porté. Et je crois que rien que pour ça, il faut te saluer, te féliciter et même t'embrasser si on est proche de toi. Pour la réponse à ta question, alors comme tu l'as remarqué, une séance de qualification est donc divisée en 3 parties, la Q1 qui dure 20 minutes, à laquelle toutes les voitures engagées pour le Grand Prix prennent part et qui doit donc déterminer sur la grille les positions de la place 18 à la place 24 sur la grille. Une fois les 20 minutes écoulées...
À condition qu'on fasse les 107%.
Enfin oui, bien sûr, à condition qu'on fasse les 107%, bien entendu, mais c'est une règle qui ne va pas être appliquée cette année encore. Alors, une fois le temps écoulé et le classement donc établi, les pilotes qui sont situés donc de la place 18 à la place 24 connaissent leur place sur la grille et n'ont donc pas le droit de participer à la Q2. Q2, elle dure donc 15 minutes. Elle sert à déterminer les places 11 à 17 et s'effectue donc sur le même principe, c'est-à-dire que les pilotes qui sont classés dans ces places, dans ces positions-là, ne participent pas à la Q3. Et enfin, la Q3, elle dure donc 10 minutes et elle sert à déterminer, comme tu l'as compris, l'ordre des 10 derniers pilotes en lice. Alors, tu te poses une autre question. Tu te demandes...
Oh, j'ai toujours rêvé de faire ça.
Ce n'est pas demandes... sale.
Ce n'est pas sale. On parle de cul. Merci. Donc, tu te demandes... pour... Enfin, tu ne comprends pas pourquoi les temps s'améliorent de la Q1 à la Q3. Eh bien, en réalité, si les temps ne s'améliorent pas de la Q, enfin, si ces temps, pardon, s'améliorent de la Q1 à la Q3, c'est parce que l'objectif de chaque partie de la séance de qualification n'est pas le même. En Q1, donc, le but est de rentrer dans les 17 meilleurs temps pour passer à la Q2. Et en Q2, donc, le but est de rentrer dans les 10 meilleurs temps pour passer à la Q3. Alors, ces séances ne réclament pas de la part des écuries de pointe, qui sont celles qui, en général, réalisent les meilleurs temps, un engagement maximal, puisqu'il leur suffit, en réalité, même si ce n'est pas toujours très facile, et si c'est toujours le cas, d'assurer un temps correct pour accéder à la Q2, puis à la Q3. En Q3, en revanche, le but des 10 pilotes, en réalité le but de 4 pilotes, est de réaliser le meilleur temps possible pour avoir la meilleure position de départ. De ce fait, les réglages sont plus agressifs, le choix des pneus est plus agressif lui aussi, puisqu'ils ont tendance à monter des pneus plus tendres pour réaliser des performances plus rapides. La puissance moteur est à son maximum, et bien sûr, les pilotes dans leur voiture donnent tout pour parvenir à réaliser la pole position, d'où parce l'amélioration des temps en Q3.
Il faut préciser qu'entre chaque partie de qualif, les temps sont remis à zéro, donc ce qui peut donner parfois des bizarreries au niveau de la grille. Au... Par exemple, le 17e parfois a un temps plus lent que le 18e. Parce que le 18e c'était le temps fait en Q1 et le 17e il est plus lent, mais comme il était en Q2, bah il est 17e.
On s'en rappelle d'ailleurs qu'à l'époque où il fallait rouler avec le plein, les temps, les vrais temps de qualif, c'était les temps de la Q2. Parce que là, on pouvait rouler à vide, alors que déjà, quand tu étais en Q3, il fallait que tu intègres déjà la stratégie carburant de la course. Bon, un peu comme c'est maintenant le cas avec les pneus. Donc, du coup, comme les voitures partaient à la gueule chargée, bah, du coup, tu étais 2-3 secondes derrière les meilleurs temps de la Q2. Depuis, les meilleurs temps de Q3 sont meilleurs que les meilleurs temps de Q2.
Voilà, ça fait partie des modalités donc, qui ont évolué depuis donc, 2006 et la mise en place de ce système de partition de la séance de qualification en Q1, Q2 et Q3. Mais comme tu m'as l'air sympathique, on va revenir un petit peu sur les modes de qualification qui ont existé en Formule 1.
Oui.
Alors tout d'abord, je vais faire appel à vous messieurs, hein, puisque vous avez évidemment la grande connaissance encyclopédique de la Formule 1. Tout d'abord, donc, on va dire pour une période relativement large de 1950 à 1987, les qualifications se déroulaient sous la forme d'une séance qui ressemblait fortement à ce qu'on peut connaître actuellement en matière d'essais libres. C'est-à-dire que chaque pilote disposait d'un nombre de tours illimité durant une séance d'une durée déterminée. Et c'était bien sûr le classement de cette séance qui donnait la grille de départ. Alors, faut savoir, j'en profite pour faire une petite précision, que vous pouvez voir parfois que certains pilotes n'ont malgré tout pas été qualifiés alors qu'ils ont effectué un temps pendant les qualifications. C'était à la discrétion des organisateurs de Grand Prix. Hein. On sait que parfois, Monaco limitait à 16 le nombre de voitures. D'autres circuits choisissaient de le limiter à 24. D'autres ne limitaient pas. En 1988, et face à un nombre important de voitures engagées, qu'est-ce qui a été mis en place, messieurs, en matière de qualification?
Séquence de pré-qualif.
Alors la séance de pré-qualification, il faut quand même savoir que c'était quelque chose de très folklorique. Ça se déroulait le vendredi matin très tôt, de 8h à 9h. Et ça servait à déterminer en fait parmi les écuries les moins performantes. Alors ça pouvait être jugé... Alors prendre la première moitié de la saison, c'était jugé sur la saison d'avant. Et la deuxième moitié de saison, c'était jugé sur la première moitié de saison. Et donc dans ces pilotes-là, 4 seulement pouvaient accéder aux vraies séances de qualification. Je dis aux vraies séances de qualification parce qu'il y avait à l'époque 2 séances de qualification, une le vendredi et une le samedi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les voitures, donc les 4 pilotes qui étaient sortis des préqualifications se retrouvaient confrontés aux 26 pilotes qui étaient déjà qualifiés d'office. Et donc, comme la grille de départ était limitée à 26 voitures, et bien c'était parmi ces 30-là que se comptaient ces 26 pilotes.
Donc là, bien mec qui arrivait le vendredi matin à 8h et qui repartait le vendredi matin à 9h.
Ben voilà.
Voilà.
Un peu comme en NASCAR parfois.
Exactement. Et donc là, bien sûr, le système de qualification était que le meilleur temps effectué lors d'une des deux séances était retenu pour établir la grille de départ. Alors, ce système de préqualification perdurera alors de manière plus ou moins officielle jusqu'en 1995, tout en sachant que sa dernière utilisation date de 1992. En 94, il y avait seulement 28 voitures engagées en début de saison, donc on n'a jamais eu besoin de recourir aux préqualifications. Et en 95 non plus, puisque la grille n'a jamais dépassé 26 voitures. Alors, en 96, il y a un nouveau changement, et quel est-il ?
Les 12 tours.
Les 12 tours.
Les fameux 12 tours.
C'est ça, exactement. Là, on change radicalement de mode de qualification, puisqu'il n'y a dorénavant plus qu'une seule séance d'une heure, durant laquelle les pilotes peuvent effectuer 12 tours.
Sachant que donc c'était vraiment tout compris, c'est-à-dire que dans les 12 tours, il y avait les tours de sortie et les tours de rentrée.
Exactement.
Donc, en réalité, ils avaient 3-4 tours à fond sur une heure.
Ouais, enfin, sachant que les pneus tenaient plus longtemps qu'aujourd'hui,
voilà.
Ils pouvaient faire plusieurs tours d'affilée.
D'affilée, ouais.
Donc, et c'est aussi à cette époque, bien sûr, qu'est instaurée la règle des 107%, puisque là, le problème qui se pose, autant avant, le problème, c'était celui du nombre de voitures qui prenaient part au Grand Prix, autant dans le milieu des années 90, avec les exigences sécuritaires, c'était plutôt le fait que des voitures étaient trop lentes pour participer à la course, et le premier pilote éliminé sous la règle des 107% était Luca Badoer. Donc ce système de 96 avec ses 12 tours et les 107% durera jusqu'en 2002. En 2003, devant la domination entre autres de Ferrari, le format des qualifications est drastiquement modifié. Là encore une fois, messieurs,
il y a la domination de Ferrari, puis il y avait aussi un phénomène qui se passait, c'est que, alors pas toutes les semaines, mais certains week-ends, ce qui arrivait, c'est que donc la séance commençait, un peu comme aujourd'hui, c'est-à-dire que t'avais les voitures de fond de grille qui partaient dès le départ. Et les top teams, celles qui sérieusement jouent les qualifs, elles partaient plus tard. Mais quand je dis qu'elles partaient plus tard, c'est pas un quart d'heure, 20 minutes plus tard, non. C'est-à-dire que parfois, des McLaren ou des Ferrari sortaient 10 minutes avant la fin, faire un tour à fond pour jouer leur place en qualif. Donc sachant qu'il y a quand même des gens qui payent pour aller voir les qualifs, que les chaînes de télé payent pour voir les qualifs, voilà, ça... Ils étaient un peu agacés, hein.
Tu payes aussi pour voir des HRT, hein.
Oui.
envie de payer pour, mais indirectement tu payes quand même.
T'as pas envie de payer très cher pour voir 5 minutes une Ferrari, quoi.
Oh.
Et ouais, donc. Oui. Donc messieurs, quel était ce mode de qualification ?
Le un tour.
C'est le un tour, ouais.
C'est ça. On va passer 3 années où la F1 va se chercher. Alors le principe, c'est quoi ?
Final. Hein.
On va pas se trouver du tout. Le principe, c'est se qualifier sur un seul tour. En 2003, il y a 2 séances de qualification. Une première le vendredi, où les pilotes donc s'élancent un par un avec 3 tours, dont ils ont droit à 3 tours, donc un tour de sortie, un tour chronométré et un tour de rentrée des stands. Là, dans ce cas-là, alors là, ça ne servait pas à établir un temps, ça servait seulement à établir l'ordre avec lequel les voitures partiront le lendemain. Et donc le lendemain, on avait une véritable séance de qualification qui était sur le même modèle, c'est-à-dire que chaque pilote s'est lancé un par un pour un tour lancé et qui donc servait à déterminer la grille de départ.
En 2004, très souvent, Kimi Raikkonen s'est retrouvé en fond de peloton puisqu'il lui arrivait parfois de faire une petite sortie de piste ou une erreur. Donc, comme c'était qu'un tour, tu te retrouvais en fond de peloton et tu faisais des remontées phénoménales.
Puis il y a eu aussi le parc fermé qui a été introduit en 2003.
Aussi, oui, à la fin des qualifications. Mais je ne veux pas embrouiller Adelin, moi.
Et la fin du warm-up.
Oui.
Oui, la fin du warm-up, oui. Mais attention, et là...
Et à un moment donné, il n'y avait plus eu sur la gauche, là, au fond, à côté de la ligne droite, il y avait un stand de frites, et ils l'ont retiré, je trouve.
Alors, en 2004, modification de ce système, parce qu'il était très critiqué, mais la vraie innovation, c'est qu'on a maintenant plus qu'une seule séance de qualification. Mais celle-ci dure 2 heures. La première heure... où les pilotes s'est lancé un par un pour un tour dans l'ordre d'arrivée du Grand Prix précédent. Et le classement donc de cette première session servait à déterminer l'ordre de départ, en inversant bien sûr, de la session suivante qui se déroulait 2 minutes après la fin de la première. Donc c'est le classement de la seconde session qui servait à déterminer la grille de départ. 2005, on continue. Une première séance, donc c'est toujours le même modèle, on revient au système de 2003, c'est-à-dire que les séances ne se déroulent pas le même jour. Une séance donc se déroule le samedi pour déterminer l'ordre de la seconde séance. Et l'autre séance, et c'était là que c'était intéressant, se tenait le dimanche matin de 10h à 11h, donc quelques heures avant le Grand Prix.
Merci, Typhon.
Oui. Et là encore, comment, la pole position donc se jouait sur un tour, même si, et c'est là qu'on voit que le système était un petit peu difficile à se mettre en place, c'est que pendant les 6 premières courses de la saison 2005, tour cumulé des 2 séances de qualification.
Bonjour, j'ai fait une pole en 3 minutes.
Ouais, c'est ça, voilà. Par exemple, on a Fernando Alonso, hein, qui réalise en 2005 3 minutes 07 secondes, hein, non pas que le circuit était plus long, non pas qu'il pleuvait, non pas qu'il pilotait une F2012, mais bien qu'il s'agissait du temps cumulé de 2 tours lancés. Et donc, 2005, vous l'avez compris, c'est le dernier système existant avant celui que nous connaissons, qui a été, bah, comme on l'a vu, modifié à de multiples reprises, notamment dans la durée des séances de qualification, dans la durée des parties, pardon, de la qualification, ou bien sûr, évidemment, dans le nombre de voitures qui y participaient.
Je crois que c'est à peu près tout sur les qualifs. Donc sinon, Dino, avons-nous une autre question ?
Alors oui, Shinji, nous avons une autre question, c'est une question de l'Elex FF1. Qui est la suivante. Bonjour ou bonsoir, c'est selon, à tous. J'aurais besoin d'un éclaircissement sur un sujet technique. Oh, c'est pour toi ça, Gus Gus. Concernant cette histoire de suspension avant à tirant chez Ferrari, sauriez-vous m'expliquer quelle est concrètement la différence avec les suspensions à poussoir et quel avantage de telles suspensions pourrait-elle procurer à Ferrari, qui semble d'ailleurs avoir bien besoin d'un petit remontant. Désolé de retourner le couteau dans la plaie, je me barrais, j'en ai marre.
Oui, partons, disons.
Non mais d'ailleurs, de toute façon, on s'en fout, on l'a eu notre remontant, donc ça va. Car j'avoue que j'ai vu très peu de photos de ces suspensions particulières et que mes connaissances dans le domaine technique de la F1 sont assez limitées. Aussi, je suis curieuse d'en découvrir un peu plus de ce côté. Bonne semaine. Là, c'est une question pour Monsieur Koanda.
Bon, eh bien, bonjour l'Elex FF1. Avant de répondre à la question, on va peut-être expliciter ce qu'est un tirant ou un poussoir. Dans les deux cas, c'est une pièce extérieure au châssis qui relie une roue aux éléments de suspension à proprement parler, donc les ressorts, les amortisseurs, tout ça. Donc pour mieux se situer visuellement, quand on prend une photo de face de la voiture, on voit 3 éléments distincts. Il y en a 2 qui sont parallèles à peu près, c'est les triangles de suspension. Eux, ils fixent la roue au châssis. Le dernier, un peu plus en biais par rapport au triangle, c'est le poussoir ou le tirant. La différence, elle est simple, c'est par rapport au positionnement de la pièce. Le poussoir, il est fixé sur le haut du châssis et il descend vers la roue, tandis que le tirant, il est fixé sur le bas de la coque et il remonte vers la roue. Donc quand la charge sur la roue augmente, quand il y a plus d'appui ou quand il y a au freinage sur les roues avant, le tirant, il tire la roue et le poussoir, il pousse la roue. C'est ça qui donne le nom. Les avantages et inconvénients du tirant...
Alors, avantages et inconvénients du tirant.
Quand je répétais, j'avais pas vu ça. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients d'une suspension à tirant? C'est assez simple pour l'avantage. Le fait que le tirant il soit fixé en bas de la coque, ça permet de placer les éléments de suspension plus bas. Donc, on peut abaisser le centre de gravité de la voiture plus facilement. L'inconvénient, et c'est un peu plus compliqué à comprendre. En fait, une suspension à tirant, ça a besoin d'une coque plus basse pour mieux fonctionner par rapport à l'angle du tirant par rapport à l'horizontale. C'est-à-dire que quand la coque elle est à la hauteur maximale, l'angle du tirant avec l'horizontale est faible. Sur la Ferrari, c'est autour de 8 degrés, alors que l'année dernière, avec les poussoirs, le poussoir il avait un angle de 38 degrés. Du coup, le problème, c'est que quand la roue a un mouvement vertical, il est moins bien transmis aux ressorts et aux amortisseurs. Donc les réactions de la voiture elles sont un peu moins franches, un peu plus mollassonnes. C'est-à-dire que le pilote aura plus de mal de ressentir de comment se comporte sa voiture et aura peut-être plus de mal à avoir des retours sur la voiture.
Ah bah c'est le problème de Massa alors.
C'est probablement ça en plus je pense. Un truc intéressant c'est que par rapport à 2014 où les coques vont devoir être 5 cm plus grandes en hauteur. Et comme on est déjà à la hauteur maximale des possibles pour les coques, cette hauteur sera ajoutée vers le bas. Les 5 cm seront ajoutés dans le bas des coques. Du coup, on pourra davantage baisser le centre de gravité avec une suspension à tirant. Et on pourra en plus augmenter l'angle du tirant. Donc ce sera plus avantageux qu'aujourd'hui d'avoir une suspension à tirant à l'avant. Et c'est peut-être là que Ferrari va tirer un gros avantage d'avoir pris 2 ans d'avance peut-être sur les autres. Parce que si ses concurrents choisissent de switcher sur une suspension à tirant, ils auront déjà 2 ans d'expérience en plus et donc ils pourront en tirer un avantage.
Mais du coup, est-ce que tu penses pas que Ferrari a peut-être mieux fait d'adopter une solution type McLaren pour son museau plutôt qu'une solution en gardant son nez haut avec ces suspensions-là?
Ben, dans un théoriquement oui, mais après il aurait fallu qu'elle apprenne vraiment tout par rapport au flux d'air sous la voiture.
Ah, et vu comme ils sont partis, quitte à tout apprendre, autant se rajouter un chapitre en plus, quoi.
C'est vrai. Mais ce qui est étonnant, c'est justement que McLaren. Ben non, au contraire, je sens, c'est pas étonnant que McLaren, alors que eux ils ont une coque basse, qu'ils aient pas fait le changement non plus, quoi. Et donc je me suis posé une question qui est pas posée par les Lex FF1, c'est est-ce que justement cette suspension révolutionnaire entre guillemets, est-ce que c'est la source de Ferrari? Alors là c'est purement une opinion personnelle, mais moi je pense pas. J'en veux pour preuve la dernière course à Sepang qui s'est déroulée sous la pluie, et dans ces conditions, les conditions elles privilégient le grip mécanique, donc qui provient du châssis, des pneus et des suspensions, par rapport à l'aéro qui est généré par les ailerons et le diffuseur. Et on a bien vu que dans ces conditions, la Ferrari.
J'aime bien ce que t'es en train de me dire là. T'es en train de me dire qu'en fait il faut juste revoir l'aéro et que la voiture elle va tout détruire.
Ouais. Moi c'est ce que je pense. Après moi je suis.
Non mais t'es notre expert, je te fais confiance.
Ouais. On a vu que dans ces conditions la Ferrari elle a bien marché, donc à mon avis on peut pas accuser la suspension d'être à la source des problèmes. Donc oui effectivement ce serait plutôt l'aéro qui serait à incriminer. Cela dit s'ils trouvent des améliorations à la suspension, je pense qu'ils vont pas se priver d'en faire. Voilà, c'est à peu près tout. J'avais déjà écrit un commentaire, je crois, sur un article qui était peut-être un peu plus précis, un peu plus complet à ce sujet. Donc, je vais mettre le lien vers cet article et vers le commentaire pour que vous ayez plus d'infos si besoin.
Bah merci.
Dino, est-ce que on a d'autres questions?
Non. À part tous les mails qu'on a reçus pendant l'émission à propos justement de Red Bull, hein, du lien, toujours. Les gens ne voient pas. Je dois dire, voilà, on a reçu 37 mails. Les gens ne voient pas le lien. Mais voilà, on laisse les jurys décider.
Tu sais quoi? Moi, je propose au lieu de faire un sondage sur l'actu du jour, je pense qu'on devrait faire un sondage si oui ou non vous pensez qu'il y avait un lien avec l'actu. Et là, à la limite, je prends un risque, mais je pense que Fab il sera d'accord avec moi.
Oui, tout à fait.
Si le sondage est en notre faveur, on marque un point de plus.
Oh.
Sinon,
c'est bien tendu en tout cas.
Non, vous marquez un point de plus. On met un point en jeu là-dessus.
Non, ça va.
Non, c'est bon.
Non mais on est convaincu d'avoir raison, mais de là à ce que le peuple soit raisonnable, c'est pas une preuve.
Ouais, voilà.
Ah là là.
La démocratie a ses limites, messieurs.
Dino, on arrive à la fin de l'émission, mais avant.
Non, pas de proverbe, Shinji.
Pas de proverbe, bah non.
Oh, j'ai eu peur.
D'abord parce que tu l'as pas préparé.
J'ai eu un moment où... Ah non. Pas toutes les semaines.
Non, mais il nous reste notre débat le plus important, Dino.
Oui. Un débat vital.
Bien sûr.
J'ai envie de dire, un débat, il y a kéké. Est-ce que vous voulez pas sans savoir que notre chaîne préférée va reprendre à partir du 6 avril, donc vendredi là, va reprendre Koh-Lanta ou Koh-Anta, oui. Ça dépend comment vous prononcez.
Oui. Hein.
Et la question de cette semaine, ce serait là, c'est une émission spéciale avec tous les anciens champions, etc. Ce serait, messieurs, si nous devions faire le Koh-Lanta des pilotes de F1 et que nous devions les envoyer par exemple dans un endroit dangereux, risqué, où ils risqueraient de mourir de faim, bref, à Bahreïn. Qui enverriez-vous dans ce Koh-Lanta parmi tous les pilotes de Formule 1? Et surtout, qui mettriez-vous dans l'équipe des Coco Pagnoc, les rouges, ou dans l'équipe des jaunes, les Sissi Pounama? Alors, messieurs, dans les Coco Pagnoc, les rouges, qui on met?
Alors moi j'ai un doute entre deux, donc si je vais en mettre un dans l'un et un dans l'autre. Dans les Coco Pagnoc, je vais mettre Mark Webber, parce que Mark Webber c'est un Australien. Un Australien égale Crocodile Dundee, donc il est parfait pour Koh-Lanta. Voilà.
C'est le bon sens.
Voilà, on sait tous que tous les Australiens font du surf, ont des dents de crocodile autour du cou et un couteau de 40 cm.
Et des kangourous et des
koalas. Et des kangourous, voilà. Tout à fait.
Bien sûr.
Donc du coup, tu mets Ricciardo chez les jaunes.
Non, parce que chez les jaunes, je vais mettre quelqu'un d'autre.
Ah.
Oh là. Et... Moi, je mets Vettel et Karthik Eyan dans la même équipe.
Ah, j'avais la même idée avec Hamilton et Alonso.
Ah non, Hamilton, il peut pas participer au jeu.
Hamilton et Massa.
Mais non, Hamilton peut pas participer.
Il est noir.
Voilà, il peut pas être rouge ou jaune.
Non, moi, chez les jaunes, je mets Button.
Alors, chez les jaunes, si on vous suit, chez les jaunes, on met Kobayashi, c'est ça?
Pitoum.
Cette émission est raciste.
Donc, toi, tu vas mettre Button chez les jaunes, Shinji.
Bah oui, il fait des marathons, il fait plein de trucs, alors on peut bien le foutre à Koh-Lanta et il risque de gagner en plus.
Donc tu mets deux champions, toi.
Ah bon? Parce que Mark Webber, il est champion.
Non mais tu mets deux champions de la survie. On est dans Koh-Lanta de la F1.
Bah oui. Ah oui, voilà, bah oui. Non, je veux quand même qu'il survive, sinon je mettrais Massa.
Oui.
Voilà.
Kubica pour faire le feu.
Passe-moi mon bras en bois. On va en faire du feu.
Les gars, vous avez pas vu ma prothèse?
Donc, pour moi, chez les Coco Pagnoc, j'ai Weber, et chez les Sissi Poumana, j'ai Button. Alors, Fab ou Gus Gus, qui vous metteriez, vous, présent ou passé?
Vas-y, Gus Gus.
Vas-y, Fab.
D'ailleurs, je pense à un truc, c'est que si tu mets Kubica pour allumer le feu, faut surtout pas mettre Kovalainen dans la même équipe, parce que ce con, il va l'éteindre.
Il va
venir, ah, un feu, faut que je l'éteigne.
C'est quoi ces questions, sans déconner?
C'est vrai, c'est clair.
Bon.
J'ai envie de mettre Piqué et Mansell dans la même équipe. Hein. Juste pour le plaisir.
Ah oui.
Voilà, on peut faire une équipe avec d'un côté Piqué et Mansell et de l'autre Massa et Hamilton.
Ouais.
Ah, ça serait superbe.
Mm. Ah, par contre, du coup, on met Massa, Hamilton chez Weber ou chez Button?
Bon, chez Weber, ça les dépaysera un peu.
Ça me paraîtrait plus drôle, ouais, chez Weber.
Donc, c'est les Coco Pagnoc.
C'est
les Coco Pagnoc, il y a Weber, Massa et Hamilton. Et donc, du coup, on met Mansell et Piqué dans l'équipe de Button chez les Sissi Poumana.
En train de chercher les pilotes avec des caractères de merde.
Bon, Alonso, il va dans les deux équipes. Parce que Alonso est tellement fort qu'il peut survivre deux fois plus. Le mec, il fera le jour.
Forcément, il aura deux fois plus de riz, les gars.
Oui, voilà.
Les mecs, quoi.
J'ai envie de le mettre avec Massa, tu vois.
Non, mais.
Le truc, Weber, Alonso, Massa, Alonso. Hamilton et Alonso, quoi.
Alonso, c'est le genre de candidat, tu sais, qui est tout seul. C'est-à-dire qu'il est dans l'équipe. Mais quand tu viens lui dire oui, tu viens aider pour faire la pêche, non, je t'emmerde. Non. Et ensuite, le soir, il repasse dans l'autre équipe pour faire la même chose. Par contre, c'est un cadeau au poteau, tu vois. C'est ça le truc.
C'est le truc, ouais.
Ouais.
Faut bourder dans une des équipes. Oh, mais le riz est pas assez cuit. Qu'est-ce que c'est que cette cabane?
C'est quoi tout sable?
C'est quoi tout sable? On est plein les yeux.
Moi, je mangeais des Big Mac à l'époque.
Ouais, on le mettrait bien dans l'équipe de Button avec Mansell et Piqué.
Oh oui.
Ça nous en fait 4 chez les jaunes et 3 chez les rouges. Il nous faut encore 5 rouges et 4 jaunes.
Voilà.
Oula.
Ah bah Koh-Lanta, ils sont 16 candidats.
C'est vrai.
Voilà, Alonso, on le met pas.
Mais non, Alonso, il fait les deux.
Ok.
Il fait chier.
Bah, faut le mettre, Alonso.
Bah dans ce cas-là, on le met chez les jaunes.
Oui.
Non, chez les rouges. Attends, chez les rouges avec Weber, Massa, Hamilton.
Bah attends, avec
Mansell, oui.
Oh bah tiens, on met Scheckter aussi avec Alonso.
Donc on met Scheckter. Et on met Alonso chez les rouges.
Et tu mets Niki Lauda dans une troisième équipe.
Oui. Non, attendez, Niki Lauda, si vous le mettez dans Koh-Lanta, faut le mettre en présentateur.
Ah oui.
Oh, le Denis Brognard autrichien. Mais tu vois,
oh, ouais.
Le présentateur un peu pervers, tu vois. Le mec, vous avez perdu le feu. Ah, c'est ballot, hein.
Oh, dommage.
Bon, alors qu'il avait le feu.
Il se met pas trop près des torches, d'accord.
Donc il nous faut encore 2, 4, 5, 3 Coco Pagnoc. Et 4 Sissi Poumana.
Y a Kéké. Ah, faut le mettre quand même.
On est obligé.
Mais d'où ça vient, y a Kéké.
Oh non. C'est le générique de Koh-Lanta, il fait y a Kéké.
Ça, c'est l'interprétation de Shinji du générique.
Oui.
De
attends, y a Kéké, comme ça?
Oui.
Ouais.
Mais prononcez la Suzy, donc y a Kéké.
T'avais fumé, non?
Non, mais Suzy fume tout le temps!
Oh la peau!
On le met avec qui, Kéké?
Bah, y a quand même une équipe chez les jaunes, là, y a deux historiques, alors qu'il y en a qu'un chez les rouges.
Ouais, mais c'est vrai, deux moustaches, une moustache dans chaque camp.
Ouais, voilà.
Ouais. Je suis d'accord.
Alors, messieurs, ce soir, nous allons faire la discussion de verre de coco. Alors, attention, par contre, Nigel et Kéké, vous êtes exclus parce que vous en laissez des morceaux dans la moustache. C'est de la tour.
Ah, putain.
Donc, je mets Kéké chez les coco Pagnoc.
On va trouver une petite place pour Helmut Marko.
Il est où mon œil? Il est où mon œil?
Non, moi, j'aimerais bien qu'on mette Fangio, mais dans son état actuel. Oh.
Donc, ça nous en fait deux. Il nous en manque deux chez les Cocopagnoc et quatre toujours, c'est les Sissi Pounama. Je rappelle les équipes. Chez les Cocopagnoc, nous avons Weber, Massa, Hamilton, Scheckter, Alonso, Keke Rosberg. Chez les Sissi Pounama, nous avons Button, Mansell, Piquet Senior, Bourdet. On rajoute peut-être Vettel et Kartikeyan chez les Cocopagnoc. Chez les Sissi Pounama.
Oui. Mmh. Bon, bien s'entendre.
Oui.
Les gars, il y a du concours.
Oh, faut mettre Sutil avec Hamilton.
Oui. Et Eric Lux. Qui se lance des noix de coco sur les uns sur les autres.
Oui.
Oui, c'est vrai que t'imagines. T'es pendant toute l'aventure. T'as Sutil dès qu'il croise Eric Lux. Du jus de coco, du jus de bouillon. Excuse-moi, c'est pas fait exprès.
Et après, il lui cache un vol. Ben, il lui cache le collier. Il doit, si tu trouves le collier, je te prends dans l'écurie.
Donc, nous avons l'équipe des Cocopagnoc, messieurs.
Ouais.
C'est Weber, Massa, Hamilton, Jody Scheckter, Fernando Alonso, Keke Rosberg, Adrien Sutil et Eric Lux.
Moi, je dis Philippe, il se fait dégager dès la première semaine, hein.
Qui ça?
Philippe.
Oh bah, non, il va rester. Non, ça, c'est Ferrari qui dirige les rouges.
Ils vont se faire chier, Rosberg et Weber, dans cette équipe. Oui.
Et donc, chez les jeunes, nous avons Button, Mansell, Piquet Senior, Bourdet, Kartikeyan, Vettel, l'équipe de Branck.
À Christophe Malbranck, allez hop.
Ça va pas, tu vas le mettre contre Hamilton.
Ah, oh, bah non, il peut pas.
Bernie avec le Stone.
Il va faire payer le riz, lui.
avec des feuilles de palmier. Il va inventer une monnaie.
C'est 3 noix de coco. Mais attention, si tu l'as encore demain, ça sera 5 noix de coco. Et puis si dans 2 jours tu le gardes, ça sera 8 noix de coco.
Bernie, il gagne la stratégie, lui.
C'est clair.
Donc j'ai rajouté Bernie chez les jaunes. Et donc
Bernie, il arrive dernier à toutes les épreuves, mais il les tient tous par les noix de coco.
Le mec, à la fin, il a une immunité à vie, tu vois. Oui. Les mecs, ils préfèrent voter pour eux-mêmes plutôt que voter pour Bernie. Qui on pourrait mettre pour pimenter cette équipe? Button, Mansell, Piquet Senior, Bourdet, Kartikeyan, Vettel, Bernie, Klaus. C'est déjà une belle équipe, hein.
Oh, oui. Bah, il nous manque Schumi.
Bon, mais Schumi, il va tout gagner.
Avec Barrichello.
Non, il y a plus qu'une place.
Il reste une place, les gars.
Ah, il reste une place.
Voilà, une place sur tous les pilotes qu'on n'a pas mis.
J'en ai genre puissant.
Et autre.
C'est, tu m'en as connu, le mec qui gagne à la fin.
Tu fais réaliser ça par la femme qui va le tout louper, du coup.
On aura des magnifiques plans d'arbres.
Oui, et des magnifiques plans de Bernie Ecclestone.
Et Nicole, oh, Nicole Scherzinger, tu mets Nicole. Dans l'équipe. Parce qu'il la faut pour les caméras.
Dans l'équipe en face d'Hamilton. Oh, c'est pas prudent.
Ouais. Il y en a qui seront pas très concentrés pendant les épreuves.
À la fin, c'est un coup à ce que les Wiss gagnent.
Il y a Button chez les jaunes?
Ouais.
Oui.
Tu mets Jessica Michibata et puis.
Oh non, tu peux pas mettre une fille dans ce groupe.
Ah. Non, une fille dans un groupe d'hommes, non.
Avec Mansell.
Un peu de respect. S'il vous plaît.
On pourrait mettre Briatore, ça serait sympa.
Ah, ouais.
Briatore,
oui.
Avec Bourdet. Avec Button.
Un périator ce nu, non?
Oui.
Ah,
bah,
c'est ça qui est drôle. Donc, je mets Flavio avec les jaunes.
J'avoue, Briator Bourdet, il va y avoir.
Briator Bourdet, Briator avec le Stone, Briator Kartikeyan, ça peut être bon. Briator Piqué et Mansell,
Briator avec le Stone, Kartikeyan.
Donc, pour affronter les Cocopagnoc, nous avons les Sissi Pounama, qui sont composés de Jenson Button, Nigel Mansell, Nelson Piquet, Sébastien Bourdet, Neran Kartikeyan, Sébastien Vettel, Bernie Ecclestone et Flavio Briatore.
Ils sont 16. À la fin, il n'en restera plus qu'un. Qui? Réponse dans quelques mois.
Bah, ça fait des belles équipes, hein, quand même.
Ouais.
Je crois qu'on a trouvé le mot qu'il fallait que tu casses dans la prochaine, dans un article.
Quoi?
Yakeke.
Non, mais c'est pas un mot.
Non, c'est pas un vrai mot, ça. Donc,
Tu sais, d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai trouvé un mot en cours d'émission.
Ah, non.
si. Prostatique, ça me paraît très bien.
Non, je peux pas mettre ça. Il y a pas de lien avec la F1.
Ah, si.
Mais non, mais je vais pas faire des articles sur Bernie Ecclestone.
Il y a Prost dans Prostatic.
Ah, ouh. Oh.
Eh, t'as vu?
Non, s'il te plaît, fais pas un mot comme ça, quoi. Tu vois, t'as hydrophile, enfin, voilà, tu peux le mettre, quoi.
Ouais, enfin, dis donc, t'es bien gentil.
Alors que moi, prostatique. Ah,
bah, prostatique, quand arrête.
Quand tu te sens prostatique.
Sans personnalité tes articles jusqu'au bout, tu peux tenter un parapersonnalité. Oui.
Cet article est sponsorisé par la Fédération Prostatique.
Des fans de Prost, voilà.
Bon, j'accepte. Je crois que... J'accepte le défi.
Oh.
Bon, j'espère que tu vas pas venir la semaine prochaine dans l'émission, parce que ça va faire court comme délai.
Là, ça va faire bien long, t'as un mois.
Oui, ça va. Eh bien, messieurs, c'est sur ce défi qui est relevé. Nous allons nous quitter.
Ah, on va peut-être rappeler, Shinji, le concours.
Oui.
Et d'abord rappeler l'adresse du répondeur, hein, répondeur@savf1.fr. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Il y aura une émission la semaine prochaine, donc là automatiquement on y répondra la semaine prochaine. Mais si jamais il y a des grands prix entre les deux, on répond toujours dans le mag du SAV. Et donc pour le concours, hein, on vous rappelle la question qui était posée par Globen, il me semble, et qui était la suivante: quelles sont les variétés différentes de NEM qu'il existe traditionnellement? Et pour y répondre, il suffit d'envoyer votre réponse à concours@savf1.fr et de nous joindre une question donc sur le prochain Grand Prix, qui sera donc le Grand Prix du Bahreïn.
Ou
sur le vide, effectivement. Voilà. Et bien évidemment, de nous fournir une réponse qui s'allie à votre question. Et nous rappelons à Globen qu'il ne peut pas participer et envoyer une question du genre: quelle est la préfecture du Bahreïn?
On l'a déjà faite, celle-là. Voilà, mais voilà. Ça fait 5 ans qu'on l'a
cliné. Oui, non, mais je la note. Je me doute pour toi, Fab, qu'elle est excellente, mais à un moment donné, faut dire stop. Halt. Hola.
Artung.
Allez, sur ce, ciao à tous.
Ciao.
Salut.
Au revoir.